Bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer. C'est l'heure. Je suis très heureux d'accueillir à notre table Madame Jourdi, directrice de la santé, et Monsieur Asquier, directeur des soins de Dieu-Fils Santé. Voilà. Merci à tout le public. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Gérard Marcel, qui est membre du conseil d'administration de Dieu-Fils Santé, et à qui j'ai proposé de venir s'il a des choses à dire, mais qui reste un petit peu dans le fond, étant un petit peu éventuellement contagieux. Non, enfin contagion. Non, plus contagieux. Bien. Et puis, je vois qu'il y a Pierre Martin aussi qui est là, aussi membre du conseil d'administration de Dieu-Fils Santé, que je remercie. Nous allons donc commencer par ce qu'on appelle le pré-conseil. Donc, je vais laisser la parole à Jacques qui va nous expliquer en deux mots, nous rappeler ce que c'est que le pré-conseil municipal. Et puis je présenterai un petit peu le sujet.
Oui, alors pré-conseil municipal, c'est le troisième que l'on fait. On a déjà fait deux précédemment. C'est avant le conseil n'est pas ouvert et c'est un lieu de présentation de dossiers ou de projets et qui ensuite peut faire l'objet d'un débat entre les élus, entre les responsables d'associations et entre le public. Il présente l'avantage qu'on n'a pas à interrompre le conseil puisque le conseil normalement, le public en dehors des conseillers, les personnes qui sont là n'ont pas le droit à la parole. Là, après la présentation, le débat s'engage.
Alors, il y a c'est bien de parler dans le micro à ce propos-là, parce qu'il y a une caméra, et donc la discussion est enregistrée et publiée, comme on dit, et sur le site, diffusée sur le site et sur YouTube. Bien, donc je voulais faire un petit historique de la manière dont c'est poser le problème de Dieu-Fils Santé vu de mon côté de jeune maire, tout juste arrivé, puisqu'une de mes premières réunions, c'était un conseil d'administration de Dieu-Fils Santé, que donc assez rapidement on a évoqué le projet qui était déjà dans les cartons depuis plusieurs années de déménagement de l'ambulatoire à Montélimar, puisque c'était une injonction de l'ARS de 2014, hein, donc déjà depuis quelques années, Dieu-Fils Santé réfléchissait à la nécessité de déménager le service d'ambulatoire à Montélimar, pour des raisons pratiques de fréquentation du service ambulatoire. Il y a 70% à peu près des gens qui fréquentent, des malades qui fréquentent l'ambulatoire, qui viennent plutôt de Montélimar, Le Teil, Donzère, voilà, plutôt de la vallée du Rhône. Donc voilà, c'est pour ça que l'ARS avait pris cette décision de déménager l'ambulatoire. On a essayé de travailler conjointement avec la direction de Dieu-Fils Santé et Madame Jourdi en l'espèce, pour voir comment on pouvait imaginer peut-être de laisser une partie de l'ambulatoire à Dieu-Fils, puisque ça concerne quand même, même s'il y a 70% des gens qui viennent de l'extérieur, ben, il y a quand même 30% de gens qui viennent de là, ici, donc pourquoi eux seraient obligés de faire le voyage. Voilà, donc on a essayé de réfléchir à cette possibilité-là. Et puis voilà, on a avancé un peu sur ces pistes de travail jusqu'au jour où, en conseil d'administration, on a senti que, en fait, Dieu-Fils Santé avait le projet de non seulement déménager l'ambulatoire, mais aussi le service de cardiologie, puisqu'il y avait un sens, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, d'une intervention commune des médecins et notamment des cardiologues sur l'ambulatoire et dans le service de cardiologie, donc que ça avait du sens pour vous de déménager l'ensemble, hein, donc ambulatoire plus service de cardiologie. Le service de cardiologie, c'est 42 lits, c'est le cœur de métier de Dieu-Fils Santé, hein, enfin une des parties importantes de votre activité. Donc on a été un petit peu, j'ai été un peu, voilà, un peu. Je trouvais déjà que de faire partie de l'ambulatoire était une perte pour Dieulfi, mais en plus, si le service cardiologie partait, je trouvais que c'était carrément une grosse perte. Et que c'était important que la partie dieulfitoise de Dieulfi Santé soit suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas de risque de voir tout le monde partir. Donc on a essayé de travailler sur cette hypothèse-là, et en particulier, mon attitude, ça a été de dire, ok, si vous pensez que techniquement c'est important de déménager la partie cardiologie, qu'il y ait des formules, des activités de remplacement, que ces 42 lits soient remplacés par des lits équivalents sur d'autres spécialités, notamment la neurologie qui a beaucoup de demandes. Que Dieulfi Santé ne parte pas comme ça en grande partie à Montélimar. Voilà, donc ça a été. Il y a eu même deux conseils d'administration où j'ai fait rajouter dans le compte-rendu une phrase rappelant bien que c'était important pour moi et donc pour Dieulfi que si d'autres activités partaient, elles soient remplacées par quelque chose d'à peu près équivalent du point de vue de l'emploi et du service à la population. Alors, au cours de ces discussions, il est apparu assez vite que la discussion, le contact avec l'ARS était compliqué. Donc j'ai proposé au directeur régional de l'ARS de Lyon, je l'ai invité à Dieulfi pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pensait du projet, parce qu'on n'avait pas beaucoup de retours de sa part. Donc monsieur le docteur Graal est venu donc au mois de juillet, début juillet. Il a souhaité rencontrer d'abord les élus, donc avec Jacques Glaise on était tous les deux, avec la présidente de la Comcom, la députée, et puis donc la directrice de l'ARS de la Drôme et le directeur régional de l'ARS de Lyon. Et c'est là où il nous a annoncé que finalement le projet tel qu'il avait été proposé par Dieulfi Santé ne pouvait pas voir le jour parce que ça demandait un nombre important de transversement, de déménagement d'un certain nombre de services et que donc à ses yeux c'était pas judicieux. Donc il demandait à Dieulfi Santé de sursoir à son projet. Voilà. Donc il y a eu une réunion après l'après-midi sur place où il a expliqué ça. Voilà, on en est là. On en est là. Depuis, on a rencontré le personnel de Dieulfi Santé qui a eu une réaction assez vive en face de ce projet. Finalement, tout laissé à Dieulfi. Donc on s'est expliqué, et puis il y a eu un conseil d'administration dernièrement où on s'est expliqué sur la position des uns et des autres. Moi, ma position me semblant assez simple, je suis là pour défendre Dieulfi et je suis là pour défendre les Dieulfitois. Donc ça veut dire Dieulfi, ça veut dire les emplois, et les Dieulfitois, ça veut dire les services médicaux. Donc j'ai essayé de tenir cette position, sachant que je suis aussi, j'ai toujours été dans l'ouverture et la discussion avec Dieulfi Santé pour essayer de comprendre les problèmes et de vous aider à les résoudre, voilà, avec cette vision que j'ai au départ.
Oui, simplement, je voudrais rajouter que toute cette position, tout le dossier a fait l'objet d'un article dans la revue de la mairie, la revue semestrielle publiée fin juin. Et dans un article, Dieulfi Santé, un élément important de la vie économique. Donc pour ceux éventuellement qui voudraient creuser l'affaire, ils peuvent se référer, c'était le positionnement de la mairie à la fin juin.
Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur la manière dont ça s'est passé et la, votre ce que vous avez ressenti, vous, enfin comment vous voyez le ce qui s'est passé et puis la suite, parce que
vous m'entendez? Oui. Moi, ce qui me semble important, c'est de parler du projet, surtout, hein, pour qu'on comprenne bien tous les enjeux. Et pourquoi, effectivement, le projet a évolué, vous l'avez dit, hein, le projet initialement, donc ça, c'était sur prescription du SROSS, publié en 2012 par l'Agence régionale de santé, qui demandait à ce que les activités ambulatoires soient installées à Montélimar pour être au cœur du bassin. Ce sont des activités, ce que je peux dire en préambule, c'est que vous connaissez bien sûr tous Dieu Puis Santé, mais il faut bien percevoir que nos activités sont toutes soumises à des autorisations et soumises à des autorisations qui doivent respecter un schéma régional de l'offre de soins avec un nombre de sites définis par l'ARS pour couvrir les besoins d'un territoire donné. Donc aujourd'hui, on est positionné sur le territoire sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sur ce territoire sud, il y a un découpage en deux qui se fait. Le nord du territoire sud, qui est Valence, qui va jusqu'à L'Oriol, hein, schématiquement, on coupe la Drôme et l'Ardèche en deux, en horizontal, et puis le sud du territoire sud, dans lequel nous sommes. Et que nous devons couvrir géographiquement, parce que nous sommes les seuls à détenir ces autorisations, et donc à mettre en place une offre de soins pour ce bassin-là de population. Voilà, donc l'enjeu pour l'ARS, c'était que nos activités spécialisées, que nous sommes seuls à détenir sur cette partie-là du territoire, soient positionnées de façon équitable pour la population du territoire donné, et de façon à améliorer l'accessibilité à l'offre de soins pour la population. Voilà, la genèse, c'est ça. Hein. C'est l'ARS qui recherche à positionner son offre de soins de façon centrale pour que les Ardéchois, on va dire les choses, hein, ne soient pas lésés du positionnement excentré de Dieu Puis Santé pour une prise en charge ambulatoire qui nécessite 3 à 5 venues par semaine sur des demi-journées pour des patients qui sont très fatigués, hein, des patients atteints de pathologies lourdes, et qui, pour qui le transport, le fait de faire une heure et demie de trajet, est très fatigant. Donc, pour certains, c'était vraiment un frein à la prise en charge. Hein, ils renonçaient, en fait, à être pris en charge parce que le site était trop éloigné. Donc, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, la notion de... Aujourd'hui, on a un recrutement qui est de 70-30 par rapport au bassin, mais en fait, il faut bien intégrer qu'il y a une partie de la population, notamment la partie qui est à l'ouest, qui ne vient pas par manque de solutions du fait de notre positionnement. Voilà, donc ça, c'est les éléments de contexte. Et ce projet a été assez long, hein, dans son cheminement, puisqu'il a fallu trouver des accords avec l'hôpital pour atterrir sur le site de l'hôpital de Montélimar, trouver des points d'équilibre pour que l'association Dieu Le Fils Santé, qui est un établissement privé à but non lucratif, hein, qui ne rémunère aucun actionnaire, qui est simplement là pour dispenser une offre de soins de qualité, il n'y a vraiment aucun enjeu financier, on est simplement sur la qualité de soins et l'offre rendue à la population dans nos activités données. En fait, donc notre but était de répondre à la demande de l'ARS. Cette demande nous paraissait sensée. Hein. On est sur un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, en étant positionné sur Montélimar, ben, on va toucher plus de monde qu'en étant positionné sur Dieu le Fils, sur des activités spécialisées. Hein. C'est important de bien distinguer le principe des activités spécialisées et des prises en charge de proximité. Il y a bien deux types de prises en charge en santé. Et donc là, on est sur ces activités-là. Donc ça, c'est le contexte de départ. Donc en 2014, l'ARS, nous sommes par injonction, c'est-à-dire une injonction, c'est on vous délivre aux autorisations à la condition unique que vous déplaciez vos activités sur Montélimar, sinon les autorisations tombent. Et donc, vous cessez vos activités. Les autorisations, elles sont délivrées pour un cycle de 5 ans. Et si on n'a plus les autorisations, c'est ce qui s'est passé avec la pédiatrie, pour ceux qui ont suivi le dossier hein, à l'époque, l'activité s'arrête brutalement. Donc on a travaillé dans ce sens, le temps est passé, notre équipe médicale de cardiologues, qui est composée actuellement de 5 cardiologues, hein, pour faire tourner donc 42 lits d'hospitalisation complète et 12 places d'ambulatoire, donc cette équipe de 5 cardiologues, a vieilli depuis 2014 et il s'est trouvé que effectivement on s'approche dangereusement de départ en retraite, puisque sur, on a 5 cardiologues, sur, le, un d'eux a 74 ans, donc on considère qu'il a déjà largement dépassé ce stade-là. Et pour les 4 autres, dans 2 ans, ils auront tous atteint, enfin 3 sur 4 auront atteint l'âge de départ en retraite. Donc on a un sujet de renouvellement de l'équipe médicale, de recrutement de l'équipe médicale de cardiologie. Il faut savoir que c'est une activité très spécifique qui détient des normes de fonctionnement très rigoureuses, qui nous impose d'avoir un minimum de 4 cardiologues, puisqu'il faut assurer l'astreinte cardiologique, une astreinte opérationnelle. Les cardiologues doivent intervenir auprès des patients en 20 minutes. Donc, il y a, si vous voulez, il y a vraiment une obligation à avoir ces 4 cardiologues. En dessous de ce seuil, le risque est immédiat, on perd les autorisations. On n'est plus en conformité et l'ARS nous retire les autorisations. Voilà, donc il y a un risque actuellement qui pèse sur ces activités-là, qui est très lourd, qui est de ne pas réussir à recruter 3 cardiologues dans les 18 mois à venir, et donc de fermer ces activités-là. Voilà. Donc pour Dieulfi Santé, notre objectif, on a une expertise, hein, la cardiologie c'est de nombreuses années d'expertise, hein, on a un vrai savoir-faire, on a des équipes qui sont vraiment formées, qui sont très compétentes. On est le seul établissement à faire cette prise en charge pour toute la Drôme et l'Ardèche, hein, on n'est même plus sur le sud du territoire sud, hein, on est vraiment en situation de monopole sur toute la Drôme-Ardèche, on reçoit des patients qui viennent d'Annonay régulièrement, enfin voilà. Donc on défend vraiment notre expertise et on veut que cette expertise-là dure dans le temps, soit pérennisée. Et donc quand on a déroulé le projet initial de transférer l'ambulatoire, on s'est très vite rendu compte que le fait d'avoir 2 sites et de devoir avoir des cardiologues à la fois sur le site de Dieulfi, à la fois sur le site de Montélimar, dans un contexte où on allait avoir 3 cardiologues sur le départ et beaucoup d'incertitudes sur leur remplacement, on s'est dit que le projet n'était pas viable dans ces conditions. Voilà. Donc on a travaillé sur une hypothèse effectivement de transférer l'activité aussi hospitalisation complète dans le but de la pérenniser, hein, de pouvoir maintenir ces conditions techniques de fonctionnement. Et on a recherché effectivement, en concertation avec la mairie, hein, toutes ces discussions ont eu lieu en conseil d'administration, à trouver des activités de compensation. Enfin, en tout cas, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça pouvait générer comme finalement opportunité pour du développement de l'activité. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez, je tiens quand même à dire, en effet, hein, vous, pendant le conseil d'administration, vous avez fait mentionner les choses, mais en aucun cas, le conseil d'administration n'a évoqué le fait de transférer purement et simplement, sans renouvellement, les activités. Il faut savoir qu'on est propriétaire de nos murs, que Dieulfi Santé détient ce merveilleux site actuel, mais qui a un emprunt de 30 ans qui a été conclu au moment où il a été construit. Donc on est responsable de notre site et on n'a absolument pas envie de désaffecter cet établissement, ni envie ni la possibilité de le faire. Hein. Il y a un enjeu pour nous à ce que ce site vive et soit vraiment un lieu actif dans le domaine de la santé.
Je reprends la parole 2 minutes juste pour 2 choses. D'abord, souligner que la qualité des soins de Dieulfi Santé, je suis frappé que dans toutes les réunions avec des personnes extérieures, elle est reconnue, elle est signalée, elle est répétée. Et je pense qu'on a énormément de chance d'avoir un site, un lieu comme celui-là chez nous. Et voilà, je vais le rappeler parce que c'est important de se rendre compte de la qualité des soins qui sont prodigués là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai bien compris la nécessité de trouver des cardiologues. Je veux juste rappeler que l'hôpital de Montélimar n'a plus de cardiologues depuis 4 ans ou 5 ans, qu'ils ont essayé d'en retrouver, qu'ils en ont trouvé 2, qu'ils ont embauché, qui sont restés quelques mois, qui sont partis. Donc il ne me semble pas que ce soit une garantie de trouver des cardiologues en étant à Montélimar. C'est pas, je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont aussi attirés par des endroits comme Dieulfi. j'ai envie de dire la preuve, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent vivre à Dieufi par choix, et que donc c'est pas, moi ça me paraît pas être un argument suffisant de dire c'est une garantie. C'est pas une garantie. C'est compliqué de trouver des garde-locs. J'en ai rencontré un certain nombre cet été qui m'ont tous dit que c'était compliqué, qu'ils étaient très recherchés partout. Donc à nous de nous bagarrer pour rien. Et moi je vous tends la main en disant faisons le boulot ensemble, trouvons des solutions.
Donc par rapport au projet, l'enjeu c'était l'unité de lieu. L'enjeu c'est l'ambulatoire doit aller à Montélimar, c'est immuable, c'est ainsi, et c'est nécessaire pour la population. Donc est-ce qu'on prend le risque d'avoir deux sites avec la nécessité d'avoir deux cardiologues, enfin un cardiologue à la fois sur Montélimar et un autre cardiologue en même temps simultanément sur Dieulefi. C'était ça, hein, le point de départ. Et après, en effet, je vous confirme par expérience, ça fait 10 ans que je suis à Dieulefi Santé et 10 ans que je recrute des médecins, je vous confirme qu'il est plus facile de recruter sur Montélimar, qu'on a plus d'opportunités en étant basé sur Montélimar. Voilà. C'est un fait, c'est ainsi. C'est vraiment le fruit de mon expérience. Donc, le point de départ, c'est ça. Une fois qu'on a dit que la cardiologie était une autorisation de niveau régional et que si on voulait la pérenniser, on avait un maximum de chances en étant réunis sur Montélimar, on s'est interrogé sur comment faire pour que finalement cette contrainte devienne une opportunité. Et donc l'opportunité, on a réfléchi, on s'est posé la question des besoins localement cette fois-ci, hein, quels sont les besoins pour les dieufitois, hein, si on devait consolider des choses ou développer des choses. On a identifié deux choses. Un, la maison de santé pluriprofessionnelle qui aurait vraiment tout intérêt à être adossée à une structure comme Dieufi Santé, puisqu'on a un plateau technique absolument considérable pour une commune de la taille de Dieulefi. Hein. On a beaucoup d'examens possibles qui peuvent être ouverts à la population, avec des conventions avec des médecins libéraux, bien sûr. Hein, les choses seraient à organiser si ce schéma-là est retenu. Donc il y a vraiment l'enjeu de la maison de santé et de l'attractivité, de la possibilité d'avoir des activités mixtes pour les professionnels de santé qui viendraient et qui pourraient travailler à la fois en activité libérale et à la fois en activité salariée, s'ils le souhaitaient. C'est de plus en plus demandé, hein, ce genre de configuration. Et l'autre opportunité qui est à mon sens vraiment important, et à mon avis le conseil municipal doit vraiment se pencher sur cette question, le départ programmé des lits de SSR polyvalents qui sont actuellement installés sur l'hôpital local de Dieulefi, pour lesquels là pour le coup on parle de lits qui servent à la population dieulefitoise, hein, ça c'est une prise en charge de proximité qui va manquer cruellement si elle n'est pas maintenue localement. Donc le fait que des lits se libèrent finalement par la cardiologie qui reste sur Montélimar permettait de proposer l'installation de ces lits sur Dieulefi et de bien sûr les renforcer en qualité, évidemment, parce qu'on a une palette de professionnels qui est bien plus importante. Il y aurait les possibilités d'avis partagés avec les autres spécialités. Enfin, ça renforcerait considérablement cette prise en charge-là. Et c'est en cohérence, hein, et en continuité finalement de nos organisations actuelles. Voilà, donc finalement, le départ de la cardiologie permet le développement de l'association de Dieulefi Santé avec des activités complémentaires qui viennent améliorer grandement, et enfin, en tout cas consolider, enfin maintenir, on va dire, à minima maintenir, mais sinon améliorer le premier recours et cette activité de consultation, d'hospitalisation de proximité.
Oui, je voudrais dire quelques mots sur le docteur Graal, qui est quand même lui aussi un cardiologue, le directeur régional de l'ARS, qui en ce qui concerne le recrutement des cardiologues, a exprimé son opinion en disant que vous soyez à Montélimar, à Perpignan, à Nantes ou à Dieulefi, le problème du recrutement sera très exactement le même. Voilà. Ça, quand même, là, je pense qu'il a une vue sur l'affaire qui lui permet...
Alors, si on accepte ce discours, ça veut dire qu'on accepte la programmation de la fin de la cardiologie à Dieu puissant. Enfin, il faut quand même...
Non, ça veut dire que les difficultés sont les mêmes que, où que vous soyez.
Mais je ne suis pas d'accord sur ce point.
Je dis ce qu'il a dit. Hein.
Oui, mais Monsieur Graal, je ne vois pas qu'il connaisse précisément la situation de Diolfi. Monsieur Graal, lui, son objectif, c'est de contenir ses dépenses et de ne pas valider un projet qui va finalement créer 17 lits pour le territoire, hein, parce qu'en fait le projet qu'on propose, il vise à effectivement avoir donc 17 lits supplémentaires, ce qui est très peu. Hein. Il faut savoir quand même que la Drôme est le département le moins doté en lits de SSR, hein, donc de notre activité, est le département le moins doté de la région. Donc Monsieur Graal, il va dans ce sens, hein, qui est l'immobilisme. On ne fait rien, on attend que les choses se défasse, voilà, naturellement, et puis ensuite on avisera. Je suis un peu raide dans mes propos, mais je crois que c'est véritablement ça ce qui motive ce positionnement.
Alors après s'être exprimé et vous avoir déçu par ce qu'il a dit, le refus initial qu'il avait, il a fait quand même une petite ouverture en ce sens que, autant que je me souvienne, je me le suis fait répéter par deux ou trois personnes, il vous a dit « faites-moi une proposition argumentée sur des lits SSR et j'aurai sans doute en capacité d'y répondre ».
C'est-à-dire, bon, je n'ai pas souvenir de cette décision.
Il a fait sur la programmation dans les deux ou trois ans qui viennent.
Oui, bien sûr. Donc voilà. En fait,
Non, et puis je voulais surtout dire que moi j'étais d'accord sur ce projet de remplacement du service de cardio par un certain nombre de lits qu'on prendrait à droite et à gauche, dont ceux de l'hôpital. Mais l'ARS dit non. Donc si l'ARS dit non, ben moi je dis non à ce projet de déménagement sans contrepartie. C'est juste ça ma position.
Hein. Mais on n'a pas défendu, et je pense que je crois monsieur maire, qu'il y a eu une défense de ce projet.
Monsieur le maire, j'aimerais quand même qu'on laisse finir madame la directrice, qu'elle expose le projet pour que ça soit bien clair pour toute la population. Parce qu'on va se perdre si chaque fois que vous intervenez, parce que je ne pense pas que c'est votre procès, on a demandé à ce que madame la directrice vienne exposer clairement le projet. Laissons-la la terminer. Après, vous donnerez votre avis et puis voilà. Mais là, sinon, c'est confus. S'il vous plaît.
C'est absolument pas le problème.
Attends, Pierre, pas maintenant.
Je suis Pierre Martin, j'étais administrateur.
Pendant 3 ans, j'étais administrateur à... Tu m'entends moins avec le micro ?
C'est pour les autres, excuse-moi, mais il y a deux personnes.
Pendant 3 ans, j'étais administrateur à la maison de santé du JAS. Et depuis la création de Diolfi Santé, je suis administrateur à Diolfi Santé. Un administrateur dans une structure comme Diolfi Santé vérifie les comptes, vérifie le bon fonctionnement de l'association et des projets de l'association, mais il n'intervient pas dans les choix. Enfin, il n'intervient pas directement. Nous faisons confiance à la direction, au personnel, aux médecins, etc., pour nous indiquer l'orientation de l'établissement. Alors, en ce qui concerne le déplacement de l'ambulatoire à Montélimar et de la cardiologie, tous les membres du conseil d'administration de Diolfi Santé ont voté pour. Simplement, quelques membres du conseil d'administration, dont M. le maire, dont M. Gérard Marcel, dont moi-même, et on avait 4e, il me semble, on a apporté un amendement en disant on est d'accord pour le déplacement de la cardiologie et des lits de soins de suite, enfin de l'ambulatoire, à condition que ça ne mette pas en péril le domaine de Chamonix. C'était la seule chose qu'on a demandé, et cette chose que nous avons demandée a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration. Voilà. Pour moi, c'est tout simple. Nous sommes d'accord pour le déplacement à Montélimar, à condition que ça ne mette pas en péril le domaine de Chamonix. C'est pas compliqué. Après, les Dulefitois, le conseil municipal de Dulefi, peut émettre des avis, peut émettre des idées, peut émettre des objections, mais ne peut pas intervenir dans le fonctionnement de Dulefi Santé, qui est une association indépendante, libre, et qui a le droit d'avoir ses choix personnels. La décision qui a été prise, c'est pas la mairie de Dulefi, c'est pas le conseil d'administration de Dulefi Santé qui l'a prise, c'est le directeur régional de l'ARS. S'il y a un responsable, c'est lui.
Merci Pierre.
Voilà, je redis simplement que Dulefi Santé avait de toute façon pour objectif de proposer un projet viable. Enfin, évidemment, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne va pas se faire harakiri. Et qu'on est très fiers du site dans lequel nous travaillons, qu'on est convaincus de la qualité des professionnels avant tout, mais aussi de l'environnement dans lequel nous travaillons, et que l'enjeu était pour nous, certes, de faire durer nos autorisations de cardiologie, mais de maintenir une activité la plus haute possible sur le site de Dulefi. Voilà, donc le projet, en résumé, et on laissera la place aux questions, je pense, après, mais le projet, il avait pour but de sécuriser durablement l'existence des activités de rééducation spécialisées en réponse aux besoins de la population drômoise et ardéchoise. Donc durablement, donc dans une logique moyen-long terme, et de protéger l'accès aux soins à la population du bassin dulefitois avec une maison de santé forte et adossée à un établissement de santé spécialisé qui pourra recruter plus facilement de nouveaux médecins traitants. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'avoir un service d'hospitalisation de proximité qui se maintienne sur le territoire de Dulefi, avec une prise en charge plus solide et un parcours de soins facilité dans un pôle de santé. Voilà l'enjeu de ce projet, qui a été soumis à l'ARS par courrier recommandé au mois de mai, pour lequel nous avons eu une réponse le 7 juillet lors de la venue de M. Graal à la demande de la mairie. Et ce que, en effet, c'est M. Graal a exprimé sa position. Il s'agit maintenant de savoir si la commune de Dulefi souhaite défendre ce projet par une action politique, ou si elle considère que la réponse de M. Graal est satisfaisante. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre aux questions.
Ok. Est-ce que... Oui. Sylvain, tu as une question?
Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on entend.
Non, on entend ça.
Non. Bonsoir à toutes. Tout d'abord, on se réjouit, le groupe de l'opposition, déjà, que vous ayez pris en compte notre demande. Parce qu'il faut savoir que si cette présentation a lieu, c'est suite à la demande du groupe de l'opposition. Sachez-le bien. Pourquoi nous avons fait cette demande? Tout simplement parce que nous avons été interpellés, par la population, suite à différents articles dans les journaux, positionnement de M. le maire, etc., etc. Donc la population, mais également les employés de Dulefi Santé. Je tenais à remercier Mme Jordite et David Asquier donc, de cette belle présentation, entrecoupée
mais très claire
et faite. Voilà. Donc il nous paraissait hyper important que l'ensemble du conseil municipal soit au courant de ce projet. Parce qu'en fait, ce que l'on voyait, nous, de l'extérieur, on se sent un peu à l'extérieur quand même, c'est que la moitié ou une grosse partie de ce conseil municipal n'était pas du tout au courant de ce projet. Seules quelques personnes détenaient un petit peu les clés, c'est tout.
Donc déjà, c'est une bonne chose que
le conseil soit au courant de tout ça, mais également via les réseaux sociaux, que la population entende bien la même chose et la notion de cloche. Vous l'avez tous compris, Madame Jordite a été suffisamment claire, c'est un projet structurant et essentiel pour le territoire, pour notre territoire, mais aussi pour la population de ce territoire. Par contre, nous, on va déplorer quand même quelque chose, il y a des choses qui nous déplaisent, c'est déjà l'attitude de Monsieur le maire et la transparence.
pourquoi la transparence est votre mot. Vous n'avez pas été transparent lors du dernier conseil municipal quand vous nous avez expliqué certaines choses. On vous a tous applaudi les deux mains, moi le premier. Mais quand on ne me dit pas tout, forcément, j'essaie de vous croire. Je ne vous croirai plus. Oui, oui, quand on sauve des emplois, etc. Mais on ne nous dit pas tout ce qu'il y a autour. On a bien compris qu'il y a d'autres choses autour. Il n'y a pas que des emplois. Ou pas, de la façon dont vous l'avez expliqué. Première chose. Non, mais laissez-moi finir après. Vous aurez tout le temps d'y répondre.
Un petit mot sur les emplois, parce que je ne comprends pas très bien le propos, mais un petit mot sur les emplois. Dans la proposition qui a été portée par Dieu Fils Santé et que j'étais prêt à soutenir si l'ARS acceptait le jeu de chaises musicales prévu, le nombre d'emplois passait de 120 à 85. Il me semble que pour le maire d'une commune comme Dieulfi, d'accepter cette baisse d'emploi, c'est quand même un effort particulier. Alors tu peux toujours dire que c'est le meilleur projet du monde et que, comme tu as dit, un projet essentiel pour l'avenir de Dieulfi, on passe quand même de 120 à 85 emplois, dans le meilleur des cas.
On est d'accord, mais c'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Dans le meilleur des
cas. C'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure.
C'est-à-dire que si les 12 lits de SSR restent, si on remet des lits en euros, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, si on laisse un bout de l'ambulatoire.
Il semble que malgré tout, même s'il y a des départs, il y a quand même des choses en parallèle qui seront mises en place. Donc il est facile de compter comme ça, bien sûr. Mais voilà. Moi j'ai une autre façon de compter. Je suis désolé. Après, moi il me semble, je pense que mes collègues de l'opposition le disent, il me semble quand même qu'une municipalité est là pour aider les porteurs de projets. On n'est pas là pour mettre un frein, bien au contraire. Ce sont eux les professionnels. Ce sont eux qui ont travaillé sur le projet. Quand je vous entends, et vous, M. Glaise, dire « Ouais, mais si, mais ça, M. Machin a dit ça », mais je pense que Mme Jourdit et son équipe, le conseil d'administration et l'ensemble des membres de Dieulfi Santé ont travaillé le projet. Donc je pense qu'il est de votre devoir, ça fait partie des rôles d'un élu, ça fait partie des rôles d'une municipalité, que d'aider les porteurs de projets et non pas d'y mettre un frein, que les choses soient claires. Ça, c'est une des choses. Je crois pas. Puisque.
Il a voté pour le projet. À condition que ça ne pas empêcher l'avenir du domaine de Chamonix. Mais... Il a voté pour.
Non, je suis pas. Non.
J'ai besoin d'apporter une précision sur la question des emplois, puisque les fichiers, les données qu'on a transmises au conseil d'administration présentaient effectivement un effectif actuel donc de 126 ETP donc sur Dieulfi, 126 postes sur Dieulfi, avec une ventilation analytique qui tombait à 86. Donc c'est-à-dire la refacturation des... On ne parle pas de la même chose, en fait. C'est la refacturation des emplois. Il faut savoir qu'il y a des emplois qui vont rester sur le site de Dieulfi. Je prends l'exemple de tout le service hôtelier, les cuisines, la préparation des repas, se fera sur Dieulfi. Et ces emplois-là resteront postés sur le site de Dieulfi. Donc, le chiffre, c'est pas exactement ça. Sur l'évaluation des positionnements géographiques des emplois, en fait, on est à 139 sur Dieulfi, et on passerait à 126 sur le site de Dieulfi dans le cadre du projet à venir.
C'est parce qu'il a été présenté au conseil d'administration.
Vous fichez sous les yeux, monsieur Busson.
Je pense que vous montez sur pied là-haut.
Je suis formel.
De 139 à 126.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc pour conclure, moi j'aimerais qu'à un moment ou à un autre, vous fassiez vraiment confiance aux professionnels. Vous pouvez avoir des idées, vous pouvez vous baser sur des on-dit, sur des... Mais faites confiance un peu aux gens et à ceux qui portent des projets. Eux les ont travaillés. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions à faire ?
Encore une fois, d'une tension qui me paraît superflue dans la mesure où il faut vraiment qu'on se mette à faire. D'abord, il faut savoir je me suis dit, mais il est clair qu'on était arrivé à une position unanime. Et c'était vraiment. Et c'était vraiment pas facile, parce que les décisions ne viennent pas de chez nous. C'est l'ARS qui a pris la décision un jour, qui nous a imposé, qui nous a fait une injonction de faire partir l'ambulatoire de la cardiologie à Montélimar. Donc à partir de ça, il a fallu réfléchir. Il a fallu des années pour réfléchir à cette question. Et progressivement, on est arrivé, l'association est arrivée à faire des propositions. Des propositions qui sont susceptibles de convenir à la situation. Ces propositions, effectivement, elles supposaient des travaux importants, puisque ça serait accompagné de la construction du bâtiment dans le cadre de l'antenne. Et avec un rez-de-chaussée pour la cardiologie, puisqu'on s'était dit que l'hospitalisation devenait nécessaire. On ne pouvait pas séparer l'hospitalisation de l'ambulatoire, étant donné que le plateau technique et les professionnels sont nécessairement identiques. Donc, cette proposition a avancé au point que Diophil Santé a fait l'achat d'un terrain et a fait des propositions d'une construction dont le permis de construire est pratiquement accordé. Je ne sais pas exactement où ça en est. Bon. Subsistait quand même une incertitude. Si cet aspect très important de la cardiologie s'en va, c'est important la cardiologie. Il y a l'histoire, il y a un certain nombre d'activités, de lits, etc. Qu'est-ce que ça va devenir de la santé? Donc il a fallu réfléchir à tout le reste. Et tout le reste, c'est enrichir la neurologie, enrichir des activités polyvalentes de rééducation, et éventuellement, en secours de valorisation du projet, intégrer une maison de santé qui viendrait contribuer à créer un pôle de santé sur ce domaine, qui deviendrait très attractif à toute Belgique, y compris pour le recrutement. Donc, ce projet a été élaboré par le bureau et le conseil d'administration de santé, et ça a été présenté plusieurs fois à l'ARS qui a reçu les documents et qui n'a pas daigné donner tellement son avis sur cette question. Il n'a pas donné son avis sur cette question. Chemin faisant, on a appris que à Montélimar, Corian, créé un centre de rééducation dans le territoire ou en proximité de Montélimar, et ça sans trop de difficultés, puisque il lui a été accordé 3 millions de subventions par la mairie et par l'ARS.
Le micro. Bien.
Parle bien dans le micro parce qu'on n'entend plus très bien.
Donc, tout ça est très compliqué. Et devant l'absence de réponse définitive de l'ARS, la mairie a demandé à l'ARS de se prononcer. Et c'est là que le docteur Graal est venu. Et le docteur Graal est venu, mais son attitude était incroyable, incroyablement négative par rapport au projet. Je n'étais pas à la réunion à laquelle vous avez assisté et qui a été suivie par une réunion à l'Office Santé, mais c'était du genre, vous avez quelque chose qui marche bien, il n'y a pas de raison d'arrêter. Deuxièmement, vous voulez vous transporter à Montélimar pour faire vivre mieux votre organisme, mais Montélimar en ce moment a beaucoup de difficultés lui-même, si j'ai bien compris. Vous voulez recruter ici, mais vous aurez autant de difficultés à Montélimar. Donc, l'attitude du docteur Graal, d'après ce que j'ai vu, c'est pas la réunion. D'après les récits qu'on a fait, il était extrêmement négatif. On en a déduit qu'il ne voulait plus, qu'il ne voulait pas de notre projet.
Donc, ils sont en discussion, oui. Sachant que c'est l'ARS qui donne la clé, hein. C'est l'ARS qui donne les, qui répartit les lits et les crédits qui vont avec.
Tout est géré, le nombre de lits, les activités, etc., sont gérés par la RS. En fait, ça prend par le ministère. Bon. Alors, on en est où? On en est où? Devant l'étonnement et les protestations de Dieu fit santé, apparemment, la RS a tourné Kazakh. Il a dit, OK, votre réalisation jusqu'à maintenant est quelque chose d'intéressant. Votre projet demande d'être retravaillé. Alors, retravaillé pour, dans quelle direction, comment, etc. Ça, moi, je pose des questions sur ce que ça veut dire d'être retravaillé. Mais donc, l'objectif actuellement, c'est effectivement d'approfondir un certain nombre de choses, y compris la maison de santé. Et c'est là que la maison de santé, la mairie, par contre, si elle n'a pas forcément tout son poids politique à apporter quant au fonctionnement de la santé, elle l'a quand il s'agit d'une maison de santé, puisque on sait bien que les médecins généralistes de Dieu vont partir, etc. Et on imagine bien que le plateau technique de Dieu santé puisse être quelque chose d'intéressant à offrir à des généralistes, qu'on puisse enrichir en plateau technique et permettre d'avoir un véritable bon pool de santé qui permettrait effectivement de contribuer à redémarrer le cycle de la santé. Je crois que c'est très compliqué et que chacun doit travailler dans son domaine. Nous, vous, à la mairie, vous avez un objectif considérable qui est d'aider à réfléchir, à créer cette maison de santé dans le cadre de Dieu fit santé. Il faut réfléchir à comment on fait, avec qui on fait, avec quel financement, etc. Et contacter les professionnels, c'est vital pour ce projet. Et quant à Dieu fit santé, apparemment, il faut retravailler le projet. Moi, je pense qu'il faut que, alors qu'il était quand même très, très avancé, il faut mettre l'ARS en face de ses responsabilités et lui demander dans quelle mesure précise il s'agit de retravailler et se mettre d'accord avec eux une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tu veux.
Alors, moi, simplement. Moi, on m'entend quand même. Non. Nous, on ne critique absolument pas le travail du conseil d'administration, et heureusement qu'il y a un conseil d'administration. Ça, on ne le critique pas. Ce qui nous a interpellés, c'est que pendant le mois d'août, enfin les réseaux sociaux servent à quelque chose, on a vu cet article du CSE, donc des employés de Dieu le Fils Santé, qui disaient « il y a une erreur qui a été faite, ça ne va pas, ça ne va pas ». Nous, ça nous a interpellés. On a demandé un rendez-vous à madame la directrice, et Laura Guyota était présente aussi à cette réunion. On voulait comprendre exactement le projet et on a pris, heureusement, plus de temps pour bien appréhender la chose. Il y a la stratégie pour développer quelque chose de très important sur notre territoire, qui peut être structurant au niveau de la médecine de proximité. Nous, c'est ça qu'on voit. Le reste, c'est le conseil d'administration qui le gère. Il y a des erreurs quand même qui ont été faites de jugement, c'est tout. Quand on entend, on nous dit « Graal est descendu ». Le projet est en stand-by, il y a un frein politique. Moi, je suis désolé, quand j'entends ça, ça peut venir d'où? C'est soit monsieur le maire dit j'ai peur qu'on perde des emplois et peut-être il a mal compris quel était le projet. Donc voilà. Sinon, ça vient de plus haut. Monsieur Graal, c'est le Graal de l'ARS. Il est à la région, au niveau régional. Il ne descend pas comme ça sur un petit territoire comme le nôtre. Il y a un échelon en dessous, c'est le département. Ça pourrait être la directrice du département qui se dépasse. Non, c'est qu'on a sollicité sa venue. Et là, ça a mis un frein. Et là, il y a eu alerte. Parce que pourquoi ce projet, du jour au lendemain, disparaît, enfin du moins, est mis en stand-by. Et donc, on perd encore du temps pour le mettre en route. Les enjeux de la maison médicale, on le portait, donc on est à fond derrière vous. Et nous, c'est ça qui nous a dit, il faut y aller. Donc, politiquement, on a commencé à essayer de bouger à notre niveau des moyens. On a interpellé le conseil régional, on a interpellé la conseillère départementale qui siège au conseil d'administration, qui est au fait de tout ça. Et je lui ai dit, attention, Il y a quelque chose qui se passe, il faut tirer ça au clair. Nous, on ne dit pas c'est bien ou c'est mal.
Ils siègent, mais ils ne viennent pas beaucoup. Hein.
Oui, tout mais je leur ai demandé d'y aller.
Ils sont venus.
Ils sont venus. Donc, moi, quand, en résumé du conseil d'administration, j'entends, bon, l'histoire n'est pas perdue, il faut se battre, c'est le conseil d'administration qui dit ça, il faut se battre pour notre projet, et que le conseiller régional et la conseillère départementale, et c'est là où un élu de commune, de village, doit interpeller, doit les dire, venez nous aider, on a besoin de vous pour faire avancer le projet. Donc c'est simplement ça qu'on a fait. Donc j'ai été en copie d'une lettre qui est partie à Laurent Wauquiez pour interpeller Laurent Wauquiez, pour lui dire, parler au directeur de l'ARS régionale pour aider Dieulfi Santé à porter son projet. Parce que le conseiller régional pense que si les élus et la population sentent qu'ils ont besoin de structurer leur médecine de proximité, il faut les aider. Surtout qu'il y a eu les dernières assises de la médecine de proximité. Je pense que c'était le sujet central.
Je n'ai pas eu le plaisir de recevoir ce courrier, mais enfin, il ne m'était pas adressé. Je vous alerte sur le fait qu'il est important, si au final les deux services d'ambulatoire et de cardiologie partent, qu'il y ait des remplacements. C'est absolument indispensable.
Mais monsieur le maire, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et je serai très attentif sur ce courrier si un jour il m'arrive sur le bureau que cet élément soit pris en compte. Hein, parce que vous prenez des responsabilités importantes sur un éventuel...
On ouvre les portes pour que ça puisse aller, c'est tout.
C'est ni Wauquiez, ni vous, ni nous qui financerons. C'est le docteur Grand. Donc, bon, ok.
Je peux intervenir encore une fois. Monsieur le directeur régional de l'ARS se déplace à tout moment.
Oui, c'est
pour les gens. Alors, monsieur le directeur régional de l'ARS se déplace à Dieulefi pour rencontrer monsieur le maire. Monsieur le maire lui dit son inquiétude par rapport au déplacement de l'ambulatoire et de la cardiologie à Montélimar. Et monsieur le directeur régional de l'ARS remonte à Lyon, ou je ne sais où, à Clermont-Ferrand, il arrive et dit, mais monsieur le maire de Dieulefi n'est pas tellement d'accord avec ce déplacement à Montélimar, donc on abandonne le projet. C'est donner beaucoup de pouvoir à monsieur le maire de Dieulefi. C'est monsieur le maire qui a tout pouvoir pour dire si on installe à Montélimar ou si on n'installe pas.
Mais c'est les questions qu'on se pose. C'est...
Le conseil... C'est la réponse que je te donne. Mais simplement, je ne veux pas me répéter, rabâcher et insister lourdement. Le conseil d'administration de Dieulefi Santé a voté à l'unanimité le déplacement de l'ambulatoire et de la cardiologie à Montélimar. A voté à l'unanimité ce déplacement, à condition que ça ne mette pas en péril le domaine de Chamonix. Je trouve que c'est défendre les emplois sur Dieulefi. Je trouve que c'est une façon d'interpréter la situation de façon pertinente et de protéger l'emploi à Dieulefi. Pour le reste, c'est la littérature.
Je vais lire les deux phrases qui ont été rajoutées au compte-rendu des séances de conseil d'administration. La première en décembre, une solution de remplacement sera trouvée avant de transférer l'activité de Dieulefi Santé vers Montélimar. Et la deuxième, c'était en février 2022. La municipalité de Dieulefi estime qu'avant tout projet de transfert, une solution de remplacement doit être envisagée avec la direction de l'ARS. C'est à ces deux conditions que, effectivement, j'ai voté, et mes collègues dieulefitois, cette résolution de transférer les activités à Montélimar.
Tous les membres du conseil d'administration ont voté. Tous, pas que Dieulefi, toi et toi.
Et madame la directrice a bien dit tout à l'heure que de toute façon il n'était pas question de laisser tomber Chamonix. Ça a été clair.
Mais oui, c'est ça.
Il y a logique court terme et logique, je sais si on est courage, moyen terme. Enfin, voilà, donc si rien ne se passe, les emplois seront toujours là l'année prochaine, a priori, hein, si le projet ne voit pas le jour.
S'il n'y a plus de cardiologue.
S'il n'y a plus de cardiologue, d'ici 18 mois...
Donc, objectif, cardiologue.
Bien. Alors, quelle solution vous proposez?
Eh bien, écoutez, on doit se voir la semaine prochaine, donc je pense qu'on va essayer de trouver des solutions.
Les retraites. 18 mois.
Pardon. 18 mois, oui.
Je crois qu'on se penche beaucoup sur la question de l'emploi, qui est une chose, et encore une fois, on est tout à fait enfin, le conseil d'administration hein, que je représente ici est tout à fait en phase sur le fait de maintenir une activité la plus haute possible sur le site de Dieupuy. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut maintenant raisonner offre de soins? Parce qu'on est un établissement de santé, hein, les emplois sont là pour permettre une offre de soins, hein, c'est notre raison d'être. Donc, en termes d'offre de soins, que pensez-vous de la situation des médecins généralistes sur Dieupuy? Que pensez-vous du départ des lits de SSR polyvalent? Comment peut-on résoudre ces questions-là?
Sur les médecins généralistes, le projet de maison de santé est évidemment toujours à l'ordre du jour. On en parlera la semaine prochaine, hein, si voilà, savoir où est-ce qu'on peut le mettre dans le cadre de Dieupuy Santé ou pas. Et sur les 12 lits de SSR, j'ai rendez-vous avec le président de l'hôpital de Montélimar rapidement pour évoquer ça avec lui. Qui est aussi président du SCOT et qui, à ce titre, a la responsabilité du respect des territoires et des aménagements dans les territoires. Je pense que la messe n'est pas tout à fait dite.
Et qu'allez-vous lui proposer? Qu'allez-vous lui proposer, pardon?
On en parle. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. À mes yeux, le départ des 12 lits de SSR n'est pas officiel. Enfin, c'est pas définitif. Enfin, c'est pas fait.
Donc, vous plaisez au maintien des 12 lits de SSR sur le site de l'hôpital local, c'est ça que j'entends.
Parlez, c'est pas le lieu là.
Mais le projet tend à répondre à ce sujet. Hein, donc,
Oui, je sais bien. Je sais bien.
Non,
c'est juste qu'on a rendez-vous tous les deux pour essayer d'évoquer la suite à donner.
La boucle, en fait, maison de santé.
Là.
On exclut de la boucle maison de santé parce que moi j'ai pas de nouvelles depuis longtemps.
Non, on n'exclut rien du tout. Hein. Okay. Non.
Voilà.
Non, Marie-Laure, quand même, autant que je me souvienne, je vous ai informé que suite à la réunion et la décision qui avait été prise pour Dieupuy Santé, on abandonnait nullement l'idée d'une maison de santé professionnelle, et je vous ai même évoqué que nous avions immédiatement pris liaison avec le CAUE, un organisme qui nous permet de nous aider sur la recherche des terrains, et nous avons évoqué investissement immobilier de Dieupuy Santé à Chamonix, ça peut être une possibilité, un terrain à côté du tennis, l'école maternelle, l'agrandissement du centre médical actuel, etc., etc. Donc, je ne pense pas que vous soyez quand même les médecins actuellement.
Oui,
mais c'est un élément nouveau, là, puisqu'on avait pris la décision de s'orienter vers la maison de santé professionnelle à Dieupuy Santé. Donc, c'est un élément nouveau et immédiatement, on a réagi.
Donc, vous réagissez par un projet alternatif, c'est ça?
Alternatif, sauf si vous Dieupuy Santé, éventuellement, vous nous dites, si Dieupuy Santé nous dit, nous, la maison de santé professionnelle, on l'envisage, on peut peut-être voir ce qu'on pourrait faire pour construire un bâtiment ou prendre sur une partie du bâtiment, c'est pas exclu. Et c'est pour ça qu'on est, pour le moment, on est là en recherche. Et ça, on le dit publiquement à tout le monde. Car j'ai entendu tout à l'heure la minorité qui disait qu'on était dans l'opposition, qu'on était dans l'obscurité. Je rappelle quand même qu'à fin juin est apparu tout ce qui a été dit et sur le bulletin semestriel. Et tout ça s'est dit. Hein. Alors évidemment, dans le bulletin semestriel, on ne pouvait pas évoquer le résultat de la réunion du 7 juillet.
Bien, moi je vous propose qu'on... On arrête là les débats. En conclusion, je dirais que j'espère que vous avez compris que c'était complexe. J'espère que vous avez compris que j'étais là pour défendre Diolfi et les deux Diolfitois.
Sur le versant emploi.
Sur le versant emploi et sur le reste, parce que la maison de santé est toujours. C'est évidemment une priorité. Hein. On ne peut pas laisser les médecins partir. Non, c'est une priorité. C'est sûr. Hein. La maison de santé est une priorité pour nous. Voilà, donc je vous remercie tous les deux d'être venus. Je remercie Gérard et Pierre aussi pour leur intervention, Marie-Laure. Il faut le coller à ton menton. Colle le menton.
Je veux insister sur le fait que pour créer une maison de santé, pour créer une maison de santé, il faut des professionnels, il faut l'alliance des professionnels, d'institutions, de lieux. Et que tant qu'on n'aura pas mis en présence ces trois institutions, la mairie, les professionnels et des financeurs éventuellement, tant qu'on n'aura pas décidé des réunions de ces trois éléments, on n'avancera pas. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je raconte mon histoire personnelle. C'est comme ça qu'on avait fait à Grenoble. On en est à créer le sixième centre de santé. Mais à chaque fois, c'est les professionnels qui sont nécessaires et l'institution, la mairie, elle est là pour permettre l'assise.
Ok. Merci à tous les quatre, tous les cinq. À bientôt. Bien, nous allons ouvrir officiellement notre conseil municipal. Je vais faire l'appel. Patrice Benoît. Magali Buisson est absente. Elle a donné pouvoir à Marion Martin. Nadia Nelson. Christian Bussin, présent. Alain Chauville.
Présent.
Vincent Thomas.
Présent.
Valérie Demarbieu.
Présent.
Bernard Delpal, absent. Donné pouvoir à Marie-Madeleine Leclerc. Marc Ebrard.
Présent.
Laurent Chirard.
Présent.
Jacques Glaise.
Présent.
Vanessa Huguenin.
Présent.
Sylvain Jean.
Présent.
Marie-Madeleine Leclerc.
Présent.
Annie Liagre, absent. Donné pouvoir à Jacques Glaise. Christophe Mancini,
présent.
Nicole Marcel,
présent.
Marion Martin,
présent.
Geneviève Morenas,
présent.
Nathalie Paulin,
présent.
Camille Perrin, absente, donne pouvoir à Christophe Mancini, Frédéric Sten,
présent.
Et Arnaud Thévenot, donne pouvoir à Vincent Domas. Qui est-ce qui veut être secrétaire de séance? Frédéric Sten, merci. L'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 4 juillet. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pas de remarques. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une abstention, absence. Ok. Le premier sujet concerne le soutien aux associations. Je vais laisser la parole à Frédéric Sten, peut-être avec ce micro qui est quand même plus efficace.
Bonjour à toutes et à tous. Suite aux attributions des subventions d'associations, il y a trois associations qui ont formulé une demande qui n'avait pas été traitée lors du précédent conseil traitant des subventions. Donc il s'agit de la gym volontaire,
Là, donc c'est une erreur de notre part. Alors, je ne sais pas exactement où, secrétariat, groupe de travail, où la demande papier n'a pas été intégrée dans le tableau des subventions. Donc, à chaque fois, pour les trois associations, bien sûr, je m'en suis entretenu avec présidente ou président, et on est tombé d'accord sur la manière de traiter les dossiers. La proposition, donc en harmonie avec la manière dont ont été traitées toutes les autres subventions, c'est de donner à la gym volontaire 400 euros moins les 6%, comme tout le monde, ce qui fait 376 euros. Pour l'UNRPA, le formulaire de demande apparemment n'a pas été reçu par l'association, on ne sait pas pourquoi. Donc ils ont formulé leur demande a posteriori, et en accord avec la présidente, la proposition est de leur attribuer 320 euros moins 6%, ce qui fait 300 euros. La boule des As, à l'instruction du dossier de demande de subvention, le groupe de travail a cru que il y avait un abandon de la demande, alors que c'était un abandon des activités ponctuelles, et l'activité fonctionnement était maintenue, la demande d'activité fonctionnement était maintenue, ce qui veut dire que, en accord avec le président, la proposition est de 250 euros moins 6% égale 235 euros, ce qui fait un total de 911 euros qui dépasse le budget association et qui seront à prendre sur une ligne restante de secours. Et voilà, je vous propose également d'aborder un autre soutien à une autre association dont va nous parler Laurence. Et ce budget, là, ce ne sera pas sur la ligne association, c'est un budget à part, mais tu vas le préciser.
Tout à fait. Là, je vais pas... Ça marche en principe ? Oui. Ça marche ? Vous m'entendez ? Bon, moi ça me donne une impression de
non. Ça marche pas avec le micro, moi je prends le temps très bien.
Ah oui, là tout de suite. Oui, donc cette ligne n'est pas sur le budget association parce qu'en fait, je pense que vous avez tous reçu ce petit agenda nature et donc en début d'année, j'avais demandé à ce qu'il y ait une ligne de 2000 euros. Pour toutes les animations, hein, il y en a une trentaine d'animations qui ont été réalisées tout au long de l'année. Et en fait, donc on a géré ce budget avec le groupe de travail et en proposant pas mal de bénévolat. Hein, il y a eu énormément de bénévolat d'organiser. Ça permettait de dégager une somme un peu plus conséquente pour un gros événement sur la biodiversité. Autour du jour de la nuit qu'on avait organisé déjà l'année dernière et qui avait été un beau succès. Et cette année, on a souhaité s'associer avec un projet donc, qui s'appelle Secret Corridor et donc, qui devait avoir lieu déjà l'année dernière sur notre territoire, mais finalement qui n'avait pas pu avoir lieu puisque leur idée, c'est de parler du corridor que représente le Jabron qui part de Combes et qui va jusqu'à Montélimar. Et comme Montélimar n'était pas partenaire l'année dernière, la réalisation n'avait pas été possible. Cette année, ils ont réussi à avoir un budget de Montélimar, de la Bégude, et ils ont débordé avec Roche Saint-Secret aussi, qui est volontaire pour accueillir ce spectacle, ce mini-festival qui va durer 1 à 3 jours selon les lieux. Chez nous, c'est 3 jours, puisqu'on a été vraiment associés tout à la construction du projet et on a souhaité soutenir vraiment amplement cette initiative. Donc voilà, c'est sur un budget complètement à part, juste pour dire qu'ils avaient demandé 2000 euros au départ, et comme notre budget complet était 2000 euros, ça n'a pas été possible. Donc on a bien baissé. Il faut savoir que par exemple, la venue de la roulotte de la biodiversité qui est louée à la LPO, c'est déjà 1600 euros, hein, avec le convoyage, etc., la mise à disposition, l'installation. Donc voilà, et l'attribution, le compromis qu'on a trouvé après pas mal de négociations, on a diminué à 800 euros. Ce qui leur a permis, ce qui était hyper important pour eux, pour obtenir un fonds leader. Hein. Nous, notre participation, ça représente ça plus la prestation, puisque associé à la venue de la roulotte de la biodiversité, il y aura aussi un spectacle, il y a des... donc on financera aussi, il y aura une prestation de service ultérieure de 700 euros pour des artistes. Donc notre participation, ça représente 18% sur un budget global.
Il y a Leader qui donne 52%, la CCDB 10%, et il y a de l'autofinancement à hauteur de 20%. Voilà. Et sinon, sur le fond, bah, c'est informer les habitants sur les merveilles de la nature, sur la biodiversité voilà, qui les entoure. Parler un petit peu de ces changements globaux, parce qu'on parle toujours de changement climatique, mais il y a des dangers voilà, dont on parle moins et qui pourtant ont un impact sur le vivant. Hein. C'est évidemment la biodiversité qui nous permet de respirer, celle qui, voilà, c'est grâce à elle qu'on a de l'oxygène, c'est grâce à elle qu'on est nourri, c'est grâce à elle qu'on peut vivre tout simplement, et on n'en parle pas. Donc voilà, ce festival a pour objectif de parler de cette biodiversité dont notre survie dépend, donc de sensibiliser et de surtout proposer un festival qui sera tout gratuit, donc que ce soit les spectacles, les escape games pour les ados ou les plus grands, que ce soit des animations, des balades naturalistes. Vous avez un programme ici si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai assez.
14, 15 et 16 octobre.
Oui, merci. Et donc ça se passera non pas à la halle. On a fait le choix de pas occuper l'espace de la halle pour le laisser à d'autres animations et aussi pour être au plus proche de ce corridor biologique que présente le Jabron, c'est-à-dire on sera en bas du parking de la gare.
Voilà. Tu peux nous dire sur quelle enveloppe sera pris ce montant?
Je l'ai dit au départ, donc c'est sur l'enveloppe de 2 000 euros consacrée à l'agenda nature. Donc c'était sur l'enveloppe agenda nature, sur les animations agenda nature, donc ou biodiversité, que vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'était pour toutes les animations. Ça a été un accord. Oui, d'accord, je redis. Donc, c'est sur la ligne budgétaire de 2000 euros qui a été votée en début d'année, choisie. Donc, pour créer toutes ces animations, ces 30 animations autour de la nature, que ce soit autour des oiseaux qu'on a fait en janvier, on a fait 3 sorties ornithologiques, que ce soit les sorties autour des fuchsatiles rouges, enfin les orchidées, que ce soit les sorties sur Saint-Maurice, que ce soit etc. C'est bon. Okay, vous l'avez tous reçu, toute manière.
Est-ce que vous avez des questions avant qu'on mette au vote?
Moi, simplement, Laurence, sur cette enveloppe de 2000 euros, vous en êtes où?
Eh bien, en fait, donc, ça va être 1500 qui vont être pris sur cette enveloppe. Et le reste, je pense que... Il y a eu un petit peu impôt, par exemple, samedi, là, pour le nettoyage, donc 40 euros par-ci, 40 euros par-là. Je pense qu'on va être à 1600 euros à la fin de l'année. Donc, on a réussi à économiser 400 euros. Voilà. Parce qu'il fallait réduire un petit peu partout.
D'autres questions? Merci. C'est bon, je mets au vote. Donc, on vous propose de voter pour... Oui, bah je vais résumer. Donc, on vous propose de voter à la fois pour les 911 euros pour les 3 associations dont j'ai parlé et de voter également pour les 800 euros attribués à Secret Corridor, volet environnement. Donc, ce sont deux montants, deux subventions, donc on les vote en même temps, même s'ils sont sur deux lignes différentes. Voilà. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, 4 personnes. Qui est contre?
J'aimerais juste dire un mot. Donc, on va s'abstenir. Ça marche pas. Mais si tu appuies sur le petit bouton.
On va donc.
C'est bon. On va donc s'abstenir pour les mêmes raisons qu'on a fait, pour lesquelles on s'est abstenu
la première fois. Moi, les 6% qu'on a retenus pour l'ensemble des associations, de toute façon, je suis contre. Je vois qu'aujourd'hui, on dépasse l'enveloppe budgétaire, donc finalement, on va trouver l'argent ailleurs. Et encore une fois, ben, les associations, 6% chaque fois dans la figure, pardon. Là, je vois la gym volontaire, ils demandaient 600 euros, on leur donne 400. Le NRPA, ils demandaient 400, on leur donne 320. On enlève encore 6%. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est logique jusqu'au bout sur notre vote. On va s'abstenir sur le vote de ces subventions-là et pour ces motifs-là.
D'accord, merci. J'ai juste envie de réagir en disant que de mon point de vue, et je crois de notre point de vue à la majorité, c'est un faux procès, parce que nous avons tenté donc d'équilibrer l'ensemble des associations
et que les 6%, tu le sais très bien Nathalie, proviennent, la baisse des 6% provient du fait qu'on n'avait pas traité les écoles, étant donné qu'elles n'avaient pas demandé en temps voulu, et qu'au final, avec votre accord, nous avons décidé de ne pas les amputer des subventions, et du coup que ça a impacté le budget global. Et qu'ensuite, sur cet argument que tu énonces que ça a de toute manière dépassé, ben, des fois il y a des solutions d'urgence et c'est pour ça qu'il y a des lignes, une ligne d'urgence. Pour autant, il n'était pas question d'augmenter au-delà du budget prévisionnel l'enveloppe globale et je pense que vous nous l'auriez reproché. Donc voilà, ben, tous les motifs sont bons. Merci.
Chacun a son point de vue, pas de problème.
Ok, merci. La délibération numéro 2 concerne la création du poste de chef de projet dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain. Je vous rappelle qu'on a embauché donc un chargé de mission Petite Ville de Demain il y a un an pour un contrat d'un an. Et donc l'idée c'est de créer ce poste pour une durée de 4 ans puisqu'on l'avait créé pour une durée de 1 an. Et que c'était prévu, c'était un peu à l'essai. Et donc, voilà, on a le financement pour les 4 ans qui suivent. Ce n'était pas non plus forcément acquis. Le financement est de 60%. Le financement de ce poste est de 75%, 50% pour la banque, l'ANA et 25% pour la Banque des Territoires. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui porte un certain nombre de projets transversaux de la municipalité. Et c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est bien de garder, de continuer à embaucher. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Patrice.
Donc au bout d'un an, qu'est-ce qu'on peut faire comme résumé sur Petite Ville de Demain?
Il est en train de terminer les propositions d'action pour les 4 ans qui viennent. C'est-à-dire que il a fait une espèce de photographie de la situation de Diophy en rencontrant beaucoup d'acteurs, hein, d'associations, de personnes, voilà, de personnes parties prenantes du développement de Diophy. Et là, il prépare des fiches actions qui vont servir à rencontrer les financeurs pour mettre en place concrètement les projets.
D'accord.
Ce sera exposé quand les choses seront finalisées, peut-être le prochain conseil municipal.
Oui, ça serait intéressant quand même d'être au courant de ce qui se passe parce que, bon, moi je participe à des comités de pilotage Petite Ville de Demain sur d'autres villages et villes. Je suis toujours invité en tant que consulaire. Et à Delphi, on n'est pas invité, donc a priori, on n'a pas besoin de. Pardon ?
Il n'y a pas encore eu de comité de pilotage Petite Ville de Demain.
D'accord.
Oui, un comité de pilotage, là, il a travaillé sur le diagnostic du territoire. Donc, il a terminé le diagnostic et il est en train de travailler sur les axes de développement de Diophy. Et donc, il y aura un premier comité de pilotage, mais avant ça, une présentation des différents axes et des différentes actions proposées en fonction de tout le travail qu'il a fait, de lien avec tous les acteurs locaux.
En général, on est invité dans la construction, je le dis juste. Voilà. C'est on est avec la préfecture, on est avec la communauté de communes, on est avec beaucoup de institutions quoi, enfin
okay.
pour créer tout ça. Ici ça se fait en vase clos.
Okay. Vase clos, c'est pas tout à fait le mot, mais
ouais, ça
se
fait différemment.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que donc on va procéder au vote? Qui est contre?
Nadia,
la création d'un poste. La création d'un poste. Du poste pour 4 ans, sachant qu'il est là depuis un an déjà. Et que donc c'est une continuation. Continuité. Qui est contre? Qui s'abstient? On sent quelques hésitations.
Je vous remercie. La délibération numéro 3 concerne la création du poste de technicien polyvalent pour l'espace culturel de la Halle.
Frédéric Sten qui va exposer ça.
À compter du 1er janvier 2023, la personne en charge de la Halle devrait être affectée à hauteur de 40% de son temps de travail au service de la CCDV, communauté de communes, pour une mission d'agent de prévention dans les différentes communes. C'est une obligation légale auquel les communes se soumettent. Et donc il a été proposé que Stéphane, en sa qualité donc d'agent de service prévention, puisse y aller. Afin d'assurer le fonctionnement et la logique de l'espace culturel de la Halle, donc il va être nécessaire de créer un poste de technicien polyvalent. Juste à préciser que il y avait des missions assurées par ailleurs par notamment Samuel Guise sur des compléments d'intervention régie à la Halle sur des vacations au Guzo et que ça coûtait cher. Et donc que finalement, associé donc à ce pourcentage libéré par Stéphane, nous pouvons proposer l'ouverture d'un poste de technicien polyvalent à 80%, ce qui permettra de gérer la Halle correctement, de continuer à la gérer correctement, et permettra également, dans ce recrutement, d'attribuer à la fois des missions de régie, d'accueil de public, ce que faisait donc déjà Stéphane et aussi Samuel lorsqu'il était mobilisé, mais aussi les missions administratives de contrat, rédaction de contrat, signature de contrat et suivi, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ?
Il va être recruté sur quel type de profil ?
Technicien polyvalent d'espace culturel. Polyvalent, donc c'est de la régie, c'est de la régie, donc la fiche de poste comprend de la régie, de l'accueil du public, de la programmation, organisation des échéanciers et aussi les contrats. Les contrats, rédaction et signature des contrats. Pas de questions, je vous propose de mettre au vote ce poste à 80%. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Merci.
Le cinquième point concerne la convention avec l'IUGA, l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble. C'est d'ailleurs dans le cadre de Petite Ville de Demain qu'on a été contacté. Écoute, Patrice, Petite Ville de Demain, on a été contacté par cette fac qui nous propose des étudiants, donc une dizaine d'étudiants qui vont travailler pendant quelques mois sur notre commune. Et notamment sur les intentions des habitants. Donc c'est vraiment un travail d'enquête auprès des habitants et notamment des propriétaires sur la manière dont ils veulent faire évoluer leurs biens fonciers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut maintenant resserrer la ville sur la ville. Donc il y a un certain nombre de propriétaires qui sont propriétaires de leur maison avec un grand jardin et que ce jardin... Je vois un spectateur qui a un bon exemple que les jardins, il va falloir les resserrer pour qu'on puisse mettre des maisons partout. Donc l'idée de ces étudiants, c'est d'enquêter auprès des propriétaires pour savoir dans quel délai, dans quelle dans quelle dynamique il se présente par rapport à cet avenir indispensable. Hein, il va falloir qu'on évolue là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette mission?
C'est pris et sur quel budget les 7 000 euros?
Les 7 000 euros sont pris sur le budget études de Petite Ville de Demain. Ça va? Non, mais c'est intéressant. Hein. C'est pas juste pour amuser des étudiants. Hein. C'est je pense que on est en train d'avoir une étude avec Epora sur la manière dont le PLU est organisé et pourquoi il y a des zones qui sont plus ou moins construites. C'est intéressant de savoir un peu ce que pensent les habitants, les Dieufitois, de la manière dont les choses vont évoluer pour eux. Oui.
Ça fait pas beaucoup d'études quand même tout ça. On a un peu l'impression que d'études en études.
De quelle étude tu parles?
Bah, de celle-là, là, les étudiants qui vont étudier la répartition des jardins en centre-ville.
Et puis
les études d'Epora, Epora,
c'est une étude CCDB.
D'accord, je peux encore, mais ça fait beaucoup d'études et je trouve que ça manque un peu d'action.
Oui, tu peux très bien dire. Donc, Epora, c'est une étude CCDB. Et puis, c'est vrai qu'il est important, c'est-à-dire qu'on a un PLU qui est extrêmement contraignant. On ne pourra pas donner et attribuer des nouvelles zones de construction à cause de la loi Montagne. Ça sera probablement extrêmement compliqué. Donc, pour essayer de redonner un petit peu de dynamisme foncier, c'est peut-être intéressant. Il existe des parcelles qui pourraient être éventuellement libérées par des propriétaires et d'essayer de faire un peu le recensement de tout ça et d'essayer de dynamiser un petit peu éventuellement le secteur de l'immobilier, du marché de l'immobilier et évidemment de la construction en conséquence.
Voilà. Et on a besoin de savoir comment se positionnent les propriétaires.
Alors, j'ai une dernière petite question. Oui. Alors, j'ai dû oublier, c'est quel budget Petite Ville de Demain pour Delphi?
C'est un budget d'études qui est prévu par le conseil départemental en particulier.
On ne sait pas le montant.
Il y a un montant global, mais c'est sur 3 ans, c'est un peu complexe, mais voilà, c'est financé. Qui est-ce qui est pour? Allez. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Merci Nadia. La délibération suivante concerne la destination du Pré Morin. La communauté de communes nous a adressé un courrier pour nous demander si le Pré Morin pouvait pas servir dans l'avenir pour un certain nombre de constructions que la Comcom prévoit de faire, de construction ou d'aménagement, notamment l'Office du tourisme, le KM et les locaux de la Comcom. Donc voilà, après réflexion, discussion avec la Comcom, avec un certain nombre d'entre nous, il nous a semblé que le Pré Morin, que d'abord la commune de Delphi n'avait pas beaucoup de terrain, que quand on parle par exemple de maison de santé, pourquoi pas sur le Pré Morin, c'est pas complètement loufoque, pas forcément, mais pourquoi pas, que c'est un tellement qui est quand même relativement grand, qui est bien placé puisqu'il est à l'entrée de la ville. Donc, qu'on pouvait aussi imaginer des projets agricoles. Il se met en place depuis quelques années de plus en plus d'espaces tests pour des futurs agriculteurs qui s'installent pour un certain temps sur une zone. Et pourquoi pas se servir de ça en attendant d'avoir, pourquoi pas, un projet plus ambitieux de lycée ou de choses importantes. on n'a pas beaucoup de place pour des projets importants, donc voilà, on voulait plutôt répondre à la Comcom qu'on gardait ce terrain. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, on a eu en annexe maison accueillante de Dolphy. Pas que ça serait éventuellement un projet qui pourrait être basé là-bas.
Pourquoi pas?
C'est bien.
On en parlera en questions diverses. Mais... Ouais.
Alors,
ouais.
Comme vous venez de le dire, on se trouve avec très peu de terrain à bâtir et j'entends qu'on peut éventuellement y mettre du maraîchage, etc. J'ai l'impression, en fait, quelque part, de rêver un peu, quoi. Il semblerait que des terres agricoles non travaillées sur Dolphy, il y en a un petit peu. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait éventuellement des études pour essayer de trouver du foncier pour bâtir. Mais justement, dites-leur de trouver du foncier pour faire du maraîchage. Mais gardons au moins ce terrain pour y faire de la construction.
Alors, c'est un terrain qui, au PLU, n'est pas constructible pour des immeubles ou des maisons. Hein.
Je sais bien, mais c'est un terrain acheté à l'époque, pendant le mandat où on était. Et ce terrain a été acheté à la famille Morin, tout simplement pour y faire une salle des fêtes. Voilà pourquoi il a été vendu, ce terrain. Il a acheté par des...
C'est donc un terrain sur lequel on peut mettre des constructions de...
Que des équipements.
D'équipements. Voilà.
Après, j'entends le mot maraîchage. C'est bien, maraîchage. On n'a pas d'eau, là-bas. Comment on fait pour faire du maraîchage sans eau? Vous pouvez m'expliquer?
Alors d'abord, il y a un petit canal qui passe pas très loin, quand même.
Oui, qui coule plus.
Qui coule une bonne grande partie de l'année pour lequel on pourrait imaginer une réserve. Mais l'idée, c'est pas d'installer un agriculteur. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé d'espace test. Espace test, ça veut dire, aujourd'hui, on n'en fait rien. Concrètement, mettre un gars qui veut s'installer, mais qui garde le terrain 2 ans, 3 ans. Hein. L'idée, c'est pas de bloquer le terrain avec un agriculteur à vie. C'est pas ça. Sur le fond de la question, sur le fait de mettre à disposition de la Comcom ce terrain pour des constructions, ça vous avez des réactions?
Pas pour. Mais je suis pas pour ne pas envisager de négocier avec la communauté.
Pas pour ne pas envisager. Là, donc plutôt là, pour.
Pour négocier avec la
Comcom. D'accord.
Okay. Bon, je serais pour attendre qu'il y ait des projets. Parce que pour l'instant, il n'y a ni de projet de la municipalité sur ce terrain,
Il n'y a pas de projet de la municipalité sur ce terrain, ni de projet de la CCDB.
Il n'y a pas de projet immédiat, mais donc, c'est vrai que c'est
faut faire une délibération maintenant. C'est ça que je ne comprends pas.
Parce que la Comcom nous écrit. Hein.
Parce que la Comcom nous demande.
Parce que la Comcom nous écrit.
On veut se positionner sur ce terrain.
Voilà.
Est-ce que ce terrain est disponible ou pas? La question de la communauté de communes, c'est ça. Est-ce que vous nous cédez ce terrain pour ces 3 projets que Christian a cités?
Voilà.
Et nous, on dit non, ce terrain, il faut qu'il reste disponible pour la commune, à long terme, effectivement. Voilà.
Qui est-ce qui est pour, donc, qu'on réponde non à la Comcom pour l'acquisition de ce terrain? Qui est-ce qui s'abstient? Et qui est-ce qui est contre? Merci bien. Marc, une histoire de tracteur et de pareuse.
Oui, les services techniques avaient, ont encore d'ailleurs, mais une épareuse qui comprend donc un tracteur Renault, l'épareuse elle-même et un châssis. Voilà, qui permet de porter les pareuses. Donc ce matériel a été acheté en 2006-2008, qui a plus de 15 ans, qui a été à l'époque acheté d'occasion.
qui est maintenant en termes de sécurité, d'usure, qui est devenue complètement obsolète. Voilà. Alors se poser deux questions, est-ce qu'on le remplace, est-ce qu'on le fait réparer? Réparer c'était très très cher. Il faudrait vraiment reprendre tout ça. Le remplacer par du neuf, c'était un très très gros investissement. À l'époque, on en avait parlé, c'était le choix a été fait de faire appel à un prestataire privé. Voilà. Donc la délibération, c'est ce matériel, donc tracteur marque Renault, qui a été acheté 21 528, les pareuses de marque Kuhn qui a été acheté 16 146 euros, et le châssis 2499,64, qui fait un total de 40 173,64 euros. Une offre d'achat nous a été faite à 14 000 euros. Donc la délibération, je vous propose de voter pour cette vente. Oui, Jacques.
Oui, Marc, pour ma culture personnelle et peut-être d'autres personnes, qu'est-ce que c'est qu'une épareuse?
Ah oui, c'est une machine qui fait qui épare. Voilà, c'est bon. Non, en fait, c'est les machines qu'on voit en particulier au printemps quand l'herbe sur les talus pousse beaucoup, qui se permet avec un tracteur et un bras. C'est une grosse tondeuse fixée sur un bras et un tracteur. Alors, voilà.
Il a compris.
C'est bon, ça va?
Oui, oui, c'est bon. Voilà. Et dans le public aussi, on a compris.
En fait, le prix de 14 000 euros a été fixé par des spécialistes qui sont venus voir le matériel. On a eu une proposition à 12 000 qu'on est arrivé quand même à faire remonter jusqu'à 14. Donc, voilà.
Oui, pour vu l'âge du matériel. Voilà.
Question.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, juste une chose. Le tracteur, il ne pouvait pas être utilisé pour d'autres choses?
C'est-à-dire que le problème, c'est que l'épareuse est montée en permanence sur le tracteur. Du coup, le tracteur, on en a un autre. Alors donc, ça aurait fait double emploi, quoi.
Voilà. Non, ça aurait été tout simplement pour l'équiper pour la neige, puisqu'on a toujours besoin, on le sait, on a...
Mais on a le camion, hein, pour la neige, donc...
Ouais. Mais on a des routes aussi.
Oui, on a...
On a plus beaucoup de neige.
Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Est-ce que je peux rajouter juste une petite question sur ce sujet-là de l'entretien des bords des routes? Donc, ok, un prestataire, il passe quand?
Il passe au printemps. Hein, il fait une première rotation. C'est difficile de donner de date parce que c'est un prestataire qui fait beaucoup de...
Est-ce qu'il passe tous les trimestres? Est-ce qu'il passe tous les deux mois?
Non, il passe deux fois dans la saison. Voilà. Surtout que la tendance est plutôt à laisser un petit peu les herbes pour préserver les herbes au maximum sur les talus pour préserver la biodiversité. Donc il y a un petit peu moins de travail qu'avant. Il intervient en principe deux fois par an, mais ça dépend des pluies, ça dépend de la pousse. Il intervient quand c'est nécessaire, quand on lui demande.
Je pense que c'est nécessaire des fois. Sur certaines voies de
l'infection. L'intervention du début d'été, en fait, il a commencé et il a dû arrêter pour des problèmes de risque d'incendie suite à l'arrêté de la préfète. Donc, ça, c'est peut-être à ça qu'il fait référence. Peut-être qu'il n'est pas passé partout.
Il a plu et ça pousse, quoi. Donc, il faut intervenir. Je pense. Ok. Délibération numéro 7.
Alors, la délibération numéro 7, elle est encore pour moi. Donc c'est une délibération qui porte sur le calcul des longueurs de voirie pour la dotation départementale voirie. Cette dotation repose sur la longueur des voiries. Donc en fait, on n'a pas construit de route depuis, donc on a repris les chiffres des années précédentes. Qui sont longueur des chemins ruraux revêtus de 43 km 747 mètres et longueur de la voirie communale 42 km 388 mètres. Donc, du coup, je vous demande d'autoriser le maire
à signer les documents afférents à ce dossier pour qu'on puisse toucher notre dotation, voire.
On est sûr que compte tenu des conditions climatiques actuelles, il n'y a pas eu à la fois d'expansion ou de rétrécissement.
Il a fait très chaud, donc les routes ont plutôt tendance à peut-être à se dilater, mais c'est une question de centimètres. Hein. Merci Jacques.
Tu as bien fait prendre le micro.
C'est une très bonne question, Jacques. Non, mais bon, voilà, puis c'est le même chiffre que chaque année. Hein. Voilà, il y a pas de mystère.
Une petite question. On s'est aperçu que marqué pour d'éventuels travaux de.
Oui.
Une grande partie a été faite.
Oui.
Par contre, on s'aperçoit que certaines portions ne sont plus marquées parce qu'avec le temps, c'est parti. Est-ce que ce sera fait ou pas ?
Oui, ça, en principe, ça sera fait. On a les réponses à un appel d'offres pour une tranche de travaux de cet automne. J'espère qu'ils pourront les faire. Les réponses ont tardé. On a reçu les dernières réponses aujourd'hui, puisqu'on est lundi. Et on va regarder tout ça avec notre chargé de mission, donc notre responsable de service technique. Je vais regarder ça dans la semaine. Voilà, puisqu'il n'y a pas de. D'ailleurs, il n'y aura pas, je te précise, Patrick, il n'y aura pas de commission d'appel d'offres puisque c'est dans un accord cadre. Donc les entreprises sont déjà choisies. Il y a trois entreprises qui répondent. Voilà.
Non, justement, le fléchage de cette subvention, puisque maintenant. Enfin, depuis quelques années, le département n'oblige pas à flécher cette subvention aux routes. Avant, c'était demandé.
C'était par l'eau, par.
Il y avait un document à remplir maintenant. Mais est-ce que, quand même, vous allez garder cette subvention fléchée sur la voirie ? Ou est-ce que ça va rentrer dans le pot commun des subventions ?
On verra au budget, mais c'est pas forcément lié. Donc, s'il y a besoin de plus, on mettra plus. S'il y a besoin de moins, on mettra moins.
Mais cette subvention ira aux routes, à la voirie.
Ben de toute façon, au budget, on a 70 000. On a 70 000 euros qui sont affectés à la voirie. Je me souviens plus du budget, c'est 76 000. Voilà. Qui sont affectés à la voirie. Ben, il est bien effectivement, quand on a construit le budget et qu'on a donné cette somme pour la voirie dans le budget, on a tenu compte du fait qu'on aurait la dotation départementale, évidemment, pour équilibrer le budget.
Bien sûr.
Vote.
On va voter. Merci Nadia. J'avais même oublié de faire voter. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Merci. On a ensuite une délibération sur la médiathèque avec Vanessa.
Bonsoir à tous. Donc moi, je vous soumets ce soir au vote le renouvellement de la convention de coopération pour le développement des ressources numériques dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme. Donc la médiathèque départementale de la Drôme, dont dépend notre médiathèque à Dulphy, a pour objectif de favoriser la lecture publique sur le territoire départemental en soutenant un réseau bibliothèque publique, dont celle de Dulphy fait partie. Pour permettre à ce réseau de répondre au mieux aux attentes des usagers et face au caractère incontournable de l'outil numérique, le conseil départemental met en place un accès à des ressources numériques, presse en ligne, livres numériques, musique en ligne, auto-formation et vidéos à la demande. La convention de coopération a pour objet de favoriser le développement des ressources numériques dans les bibliothèques du département de la Drôme. Elle fixe les moyens de mise en œuvre pour chacun, partie dans le cadre de ce projet. La médiathèque départementale donnera accès à ces ressources numérique à partir de son site internet pour les usagers qui sont inscrits à la médiathèque de Dulphy ayant un abonnement annuel en cours de validité. Donc en 2018, la commune de Dulphy avait signé une convention de coopération pour le développement des ressources numériques dans les bibliothèques avec le département pour une durée de 1 an, reconductible tacitement 3 fois. Il est donc proposé de renouveler cette convention dans les mêmes conditions et de verser donc la participation annuelle. Donc la participation annuelle fixée, elle est de 40 centimes d'euros par habitant pour l'accès à ce service qui est donc estimé à 1350 euros. Est-ce que vous avez des questions ?
Juste, je suis désolée, mais entre la note de synthèse et la délibération, micro. Voilà, micro,
C'est la population DGF, donc c'est 3800 habitants et pas 3375 comme la population ici.
Donc le chiffre, le vrai chiffre, c'est 1520 euros.
1520.
C'est quoi la dotation globale de fonctionnement?
Merci pour cette précision.
Le nombre d'habitants d'une commune est toujours un petit peu compliqué à déterminer, et donc en fonction des règles qui sont adoptées, ben on a entre 3200 et 3800 habitants. La vérité, c'est plutôt 3200. Mais pour payer les 40 centimes, c'est 3800. C'est pas trop.
Je voudrais rajouter une petite précision aussi. On fait avec la CCDB.
Il n'est pas allumé ton micro, Nadia.
Avec la CCDB, on met en place, avec la commission culture et solidarité de la CCDB, on met en place un contrat territoire lecture en ce moment qui a consisté en une étude, une de plus, voilà, mais qui va tout à fait dans le sens d'une mise en commun des ressources numériques dans les trois médiathèques. En tout cas, dans nos trois médiathèques de la CCDB, c'est-à-dire Bordeaux, la Bellevue, des deux. Voilà. Allons-y, c'est bien de mutualiser ces ressources-là, parce que tout ce qui est numérique, ce n'est pas des livres qu'on transporte, ce n'est pas des gens qui se déplacent. Voilà.
Finalement, tu serais presque pour les études.
De temps en temps, elles sont nécessaires. Oui, il y a ce qui est nommé un CTL, un contrat territoire lecteur, qui est donc mis en place par la communauté de communes et qui cherche à faire une mise en réseau des trois médiathèques de notre territoire. Nous en avons une à Dulphy, une à la Bégude et une à Bordeaux. Elles sont toutes les trois avec des fonctionnements très différents et elles n'ont pas les mêmes médiathèques départementales de référence, parce que Dulphy dépend de celle de Nyons, celle de la Bégude également, mais celle de Bordeaux dépend de Cray. Donc elles ne vont pas chercher leurs fonds aux mêmes médiathèques départementales. Donc l'idée, c'était d'uniformiser le territoire. Et donc c'est là-dessus que travaille aujourd'hui effectivement la communauté de communes en partenariat avec beaucoup d'acteurs du territoire. Et donc ce projet est avancé et pas encore finalisé, puisque maintenant il va falloir prendre des décisions qui seront communes à ces trois médiathèques. Donc pour en revenir au conventionnement, donc pour accès au fonds numérique, s'il n'y a pas plus de questions, je vous demande de voter. Donc qui est pour? Je vous remercie.
Tout le monde est pour. Une fois, ça marche. Ouais. On compte une fois, deux fois, trois fois.
Bon, bah, puisqu'on parlait des transmissions numériques, c'est bien, je vais rebondir là-dessus, puisque je vais vous parler d'une convention portant sur le déploiement de la fibre sur un bâtiment appartenant à la commune. Il s'agit du bâtiment 12 rue Malotière, donc les travaux d'installation de la fibre optique sont réalisés par la société ADTIM, qui est un opérateur de réseau qui travaille pour ADN, qui est Ardèche Drôme Numérique, alors qui est une structure qui travaille sur l'ensemble des deux départements. Et qui après sous-traite à des différents bureaux d'études et différentes entreprises qui font le boulot. Voilà, c'est parfois d'ailleurs assez difficile de savoir qui est qui, parce que c'est assez, il y a des jeux assez compliqués de sous-traitance. Mais en ce qui nous concerne, donc 12 rue Malotière, référence cadastrale AB0435, il s'agit d'autoriser donc ADTIM à poser des câbles sur la façade. Alors ce sont des câbles qui se présenteront comme la plupart des câbles téléphoniques qu'on peut voir partout. Alors, il y a des boîtes de dérivation et puis des petits câbles blancs qui suivent. Voilà, alors je vous propose d'autoriser le maire à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais en profiter pour faire une petite précision, parce que nous, on reçoit cette demande de conventionnement donc de la part d'ADTIM, mais beaucoup de particuliers reçoivent la même chose, hein, puisque on doit autoriser cette société à installer un fil, un poteau ou des fils sur la façade pour le déploiement de la fibre.
Et c'est très 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 important pour la modernisation de notre territoire. Donc j'aurais tendance à transmettre aux différents particuliers qui sont concernés par ces demandes de répondre assez vite. Parce que les besoins de communication des entreprises, des particuliers sont importants. Et donc ça nous donnera un petit coup de... Ça nous simplifiera quand même que ces demandes arrivent assez vite. Donc là, je m'adresse au grand public. Je vous remercie.
Votez.
On va voter. Mais on l'a voté déjà. Mais oui. Unanimité.
Bien, la délibération suivante concerne un don. Je laisse la parole à Marion Martin.
Bonsoir. Donc moi, je vais vous demander de voter pour que la commune accepte un don de Madame Camille Perrin pour des instruments de musique. Voilà, donc il y a eu un don qui a été fait cet été. Donc il s'est constitué de beaucoup d'instruments. Il y a 6 balafons 12 lames, 2 balafons 16 lames, 2 violons, 1 quart, 8 violons de demi, 4 violoncelles, 10 coussins pour violon, 3 trombones, 4 clarinettes, 1 tuba, 1 trompette, 5 flûtes traversières, 1 batterie. C'est extrêmement conséquent, c'est pour ça que je tenais à vous faire la liste, parce que c'est vraiment très important. Voilà, et en fait, donc Camille Perrin m'a transmis une lettre à vous lire ce soir pour expliquer un peu son intention et ce don. Voilà, donc adieu fille, le 15 septembre 2021. Chers conseillers, conseillères municipaux, j'ai reçu cette année...
22.
Oui, j'ai lu 21, c'est pas moi qui suis. Elle a marqué 21. J'ai reçu cette année de l'argent d'un héritage. J'estime ne pas en avoir besoin et n'ai aucune envie de le garder pour un avenir incertain. J'ai eu envie d'en faire un don utile en complétant le jeu d'instruments de musique que la commune met à disposition de l'école, offrant ainsi aux générations d'enfants qui se succéderont la possibilité d'emporter un instrument chez eux pendant 2 années scolaires. Je fais une mini parenthèse, donc ça concerne le CM1 et le CM2 de l'école du Ginchet. D'en prendre soin, d'avoir le temps de progresser et de goûter davantage la satisfaction et le plaisir de faire partie d'un ensemble musical. Les instruments ont été choisis avec soin par l'enseignante de musique auprès de fournisseurs locaux pour durer dans le temps. Ce don manifeste mon aspiration à une société dans laquelle le partage de la richesse est la norme et permet à chacun, chacune, de vivre une vie digne. Bien sincèrement, Camille Perrin. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions. Qui est pour ? Alors, oui, ça devait être un...
C'est une obligation de donner le nom.
Ça devait être un don anonyme, mais en fait, il y a une obligation de donner le nom, vu que le don est fléché. En fait, voilà, à la base, il y avait une vraie volonté que ça soit un don anonyme. Mais un don anonyme, ça ne peut pas être fléché. Donc la commune en fait ce qu'elle veut. Et là, il y avait vraiment cette volonté que ça soit fléché pour les instruments de musique de la commune. Donc c'est pour ça qu'il y a non, qu'elle a tenu à écrire une lettre ce soir. Pas de plusieurs sessions. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a des abstentions ?
Abstention, contre ?
Est-ce qu'il y a des contres ?
Non,
c'est bon, tout le monde a des contres. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des contres ? C'est bien ce qu'il me semble.
Le don me dérange absolument pas, mais alors avoir une leçon de morale, je trouve ça hallucinant. C'est non, mais ça, c'est des commentaires fléchés, c'est hallucinant.
Ok.
Bien.
Le dernier point concerne le compte rendu des décisions. Donc un virement de crédit de 2 500 € pour un problème de consignation d'expertise judiciaire. La décision numéro 36, l'attribution du lot numéro 7 de revêtement de sol du marché des archives pour 4 425 €.
la décision numéro 37, la commande d'une mission de bureau de contrôle dans le cadre du projet des écoles primaires et maternelles à BETA le contrôle pour 26 016 €. La décision numéro 38, la convention d'occupation précaire d'un logement situé dans l'ancien collège avec l'association Espoir, une convention qui poursuit une occupation. La décision numéro 39, la commande pour le bornage de la limite entre les parcelles 677 et 411 auprès de M. Rémi Alquier pour 1 200 €. Ça concerne les falaises qui ont tendance à s'effondrer derrière la rivière, au-dessus de la rue du Bourg, place du Picodon. La décision numéro 40, la renégociation pour la réalisation du revêtement final du sentier pour l'accès à la chapelle Saint-Maurice pour un montant de 10 136 €. La décision 41, la commande pour l'élagage de charpentes de hêtres dangereuses sur l'emprise du sentier pour les personnes à mobilité réduite pour 6 955 €. C'est l'Office national des forêts. La décision numéro 42, la commande pour la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et d'aménagement du local destiné à l'espace France Service à l'architecte Juliette Bénizeau pour 10 300 €. La décision 43, l'avenant à la convention d'occupation précaire d'un logement situé au Junché pour l'association Passerelle. Là, c'est pareil, c'est une convention qui continue pour 2 mois. La décision numéro 44, un virement de crédit pour le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. C'est quelque chose que la commune paye au département. On avait budgétisé sur les chiffres des années précédentes 30 000 €, et en fait c'est 37 350 €. Donc on est obligé de faire un virement de crédit de 7 350 €. La décision numéro 45, l'avenant à la convention d'occupation précaire de logement situé dans l'ancien collège avec l'association Espoir. C'est la même que l'autre, non, c'est pas la même que l'autre, il y en a deux. Ça, 3 août et 24 août.
C'est ça.
Oui. C'est dans l'ancien collège. La décision numéro 46, la commande pour la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation, de requalification des anciens bâtiments de Top Garage à l'architecte MAA Atelier I, M, je sais pas ce que c'est. Et EFI Conception, BET thermique et fluide, pour un montant de 17 864 €. C'est le bureau d'études qui travaille avec l'architecte.
Avec l'architecte, et c'est Madame Antonioz. Hein. Madame Antonioz qui est rue du Bourg.
La décision numéro 47, la commande pour des travaux de réfection partielle de l'ennui du mur nord du transept de l'église Saint-Roch pour un montant de 2 246 €. Ça traîne depuis un moment. Il y a des cailloux qui tombaient. Donc voilà, c'est en cours. La décision numéro 48, commande pour une étude géotechnique dans le cadre du projet de regroupement des écoles à l'entreprise ECR Environnement pour un montant de 3 100 €. Et la décision numéro 49, la commande pour le contrôle technique de 60 poteaux incendies de la commune à l'entreprise FPI 2607 pour 2 910 €. Voilà. Je vous propose de passer aux questions diverses. Est-ce que vous en avez? Je vois que Sylvain se saisit le micro.
Oui, ça va aller très vite.
J'aime pas du tout quand tu dis ça.
Il y en a pour une demi-heure. Non, deux courriers qui vous ont été transmis. Et
qui... également un courrier de Loïc Vérol.
Il s'inquiétait, en fait, il y a un
terrain.
Et ce terrain, donc,
normalement desservi par
une voie communale, que cette voie n'existe plus, il aimerait pouvoir retourner sur son terrain. Donc, est-ce que vous avez prévu d'y faire quelque chose?
C'est dans les tuyaux.
Voilà. Alors, il faudrait y répondre, ouais, parce que ça date du mois d'avril, et il n'a même pas eu l'accusé de réception de son courrier. Donc c'est un petit peu embêtant. La même chose pour le collectif de la Viale, au sujet de la grande rue des Terreaux. Pareil, c'est un courrier du 9 avril. Ils s'inquiétaient de l'état de la rue. Ils nous ont envoyé un courrier. Ils n'ont toujours pas eu de réponse. Alors, qu'est-ce que vous l'avez bien eu? Et si oui, merci de leur...
J'en avais parlé en réunion de quartier, mais c'est vrai qu'il y a assez longtemps. Ouais. Bah, oui, effectivement, c'est une rue qui a été complètement bouleversée lorsque le SIA a fait des travaux de réseau. Hein. Ça a été mis à l'égout, mais ça date d'il y a 4-5 ans. ça a été mis donc égout et eau usée et eau pluviale et adduction d'eau. Donc tout ça a été refait sur ces roues. Et puis à l'époque, ça a été regoudronné très très vaguement avec du bicouche qui effectivement fait pas mal de gravier. Et c'est, je suis absolument d'accord, c'est pas beau du tout. Voilà. Et que effectivement, ce que j'aurais dit, ça serait intéressant qu'on arrive petit à petit à trouver le budget pour refaire ces roues.
D'accord. Donc, absolument d'accord. Merci de répondre également. Ensuite, on parlait de voirie tout à l'heure. Donc, on s'est aperçu que sur nos petites routes, en l'occurrence celles des rouvières, etc., on se retrouve avec des peintures au sol, des 50 un petit peu de partout. Donc, alors, on se plaint de problèmes d'affichage, etc., qu'on en rajoute un petit peu au sol. C'est une chose, mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'on est capable d'en mettre au sol alors qu'on a un panneau 10 mètres à côté, quoi. Panneau 50 rappels, donc voilà.
Alors, au dernier conseil municipal, je vous avais fait part de cet arrêté de Madame Priotto, qui date de 2009, qui disait que l'agglomération, c'est le code de la route, c'est 50 à l'heure, voire 30 à l'heure en cas de... Et que l'arrêté de Madame Priotto stipulait que sur toute la commune de Dieulefit, la vitesse était de 50 à l'heure, compte tenu de la sinuosité et de l'étroitesse des voies. Donc, notre mission, c'est d'en informer la population. On va le faire en bulletin municipal, certes, mais également, c'était de l'indiquer sur les chaussées, sur les routes. Il est bien question, Sylvain, de retirer les panneaux métalliques, mais ça n'a pas pu être fait dans l'été, compte tenu du risque d'incendie, d'étincelle en sciant ces panneaux. Mais c'est bien prévu. J'ai fait toute la commune avec le chef des services techniques. Tout est noté. J'ai la liste.
Non, mais cherchez pas.
J'ai toute la liste. Les panneaux métalliques vont être retirés et sont remplacés par des peintures au sol par un pochoir. Donc actuellement, les rouvières ont été faites, la route de Dieulefit Santé, etc. L'autre jour, on a navigué sur les UBA. Tout est prêt à être peint. Et les panneaux métalliques vont être retirés maintenant, sans risque de mettre le feu aux prairies à côté. Tout ça, ça va être... Alors, on n'a pas fait les vitrouillères encore, ni la partie Zicombs, on a fait. Voilà, on a fait les UBAs mardi dernier, on a fait tout ça. Donc, ça arrive, et les panneaux métalliques vont être retirés dès qu'on peut.
Merci. Non, je n'ai pas fini.
C'est la
demi-heure. Ensuite, on est toujours sur la voirie. On s'aperçoit, et là, ce sont des artisans qui m'en parlent. On s'aperçoit que la végétation a tendance à se refermer sur les routes. C'est-à-dire que quelqu'un avec un camion, avec un engin, etc., et moi, pour y avoir goûté, avoir cassé un gyrophare, certaines routes sont complètement fermées. Donc, il serait bien, peut-être, à un moment ou à un autre, de prévenir les riverains, afin qu'ils puissent faire voilà, le nécessaire pour que les routes puissent être praticables par tous les véhicules.
Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui m'a été signalé il y a quelques mois par un entrepreneur, puis j'avais effectivement vu moi-même, puisque bon, dans ma vie, j'ai un peu conduit des gros véhicules. Alors, effectivement, donc, j'ai fait moi-même l'inventaire sur une partie de la commune. Notre chef responsable des services techniques est en train de finaliser l'inventaire de l'ensemble des propriétés qui débordent exagérément, parce qu'on ne va pas couper tous les arbres au bord de la route, qui débordent exagérément sur les routes, sur les voiries communales, et on va faire un courrier à chaque propriétaire. Voilà. Donc c'est dans les tuyaux, on est en train de le faire. Voilà.
Je voulais juste rajouter aussi qu'il y a parfois, faut faire attention, il y a des candélabres qui sont entourés, qui sont cernés par des arbres aussi de propriétaires privés. Et peut-être que voilà, ça peut être dans le regard aussi.
Ça fait partie du truc. Ouais. Oui, ça fait.
Voilà. Ensuite, une autre chose, c'est une information. Vous le savez tous, le loup est dans le bois depuis quelques années déjà. Par contre, il a tendance à se rapprocher dangereusement. Tout simplement, l'information que j'ai eue pour faire vérifier, aller voir les gens chez qui ça s'est passé. Il y a eu une attaque donc, de brebis dans les Ubas, non loin de chez toi, Geneviève, hein, à 300 mètres à vol d'oiseau. Donc après, en plein après-midi, voilà. Donc un loup est venu, ça a été constaté par l'Office national de la chasse. Voilà. Ils attendent tout simplement maintenant la confirmation, parce que ça passe par la préfecture, de la préfecture. Donc ça veut dire que voilà, le loup est là, on le sait, mais il a tendance, voilà, c'est bien. J'alarme pas, j'alerte. Il a tendance à se rapprocher dangereusement des habitations. Voilà. Et puis une dernière chose qui n'est pas marrante du tout non plus. Vous le savez tous, Madame Brondel est décédée le mois dernier. Madame Brondel a était agent pour la commune de Dulcy. Elle est rentrée à la mairie en 1972, lors de la création de l'école élémentaire à Dulcy, et elle a pris sa retraite en 1996. Donc, pour information, elle habitait avec sa famille ce qui est devenu maintenant la buvette du foot, mais qu'on appelait la conciergerie. Voilà, donc Madame Brondel est décédée. Je pense que ça serait bien, là aussi, qu'il y ait un petit quelque chose sur le, comment dire, sur le bulletin, avec une petite pensée pour elle et pour sa famille.
Voilà, voilà, c'est sympa.
Ok. Oui, Patrice.
Je voulais juste parler, enfin, j'anticipe une question. Je suis allé à la soirée d'information du parc, du tiers-lieu le parc, qui devait un peu expliquer leur projet pour ceux qui ne connaissaient pas. Et comme je ne voulais plus, je veux plus entendre les fantasmes d'Ulfitois, donc je suis allé à la source et pour être informé. La réunion n'a pas eu lieu faute de personne, donc Martin, un des associés, a pris le temps de nous expliquer le projet et comment il montait la chose. On a eu un bel échange, j'ai donné mon point de vue, il a donné le sien, je pense qu'on a chacun réfléchi. Ce qui me perturbe le plus, c'est leur montage de société en SIC. Et il m'a expliqué que ce montage permettait d'avoir des dons, d'obtenir des dons autant de personnes morales, enfin privées que morales, donc entreprises, etc., etc. Et surtout des collectivités. La question que je pose, c'est est-ce que la municipalité peut avoir l'idée de subventionner cette structure? En sachant que c'est pas nouveau, ce système n'est pas nouveau sur notre territoire. Le château de Poitiers-Lard fonctionne comme ça. Mais les murs appartiennent à la mairie. Donc il y a un intérêt de préserver le. Voilà. Là, on est sur une structure totalement individuelle et privée.
Alors sur la une réponse concrète, c'est un peu difficile parce que je dirais que on s'est éventuellement posé la question. Je pense que le projet que ces jeunes ont mis en place d'abord est un projet qui a du sens pour nous, parce que c'est vrai que ce restaurant qui était fermé, dans lequel il ne se passait rien depuis 2 ans, c'était quand même dommage. Ils ont fait tourner le restaurant pendant 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus exactement le nombre de... Quand est-ce que ça a commencé, 4 mois
déjà, juin, ouais.
Je pense que beaucoup de gens y sont allés avec plaisir. L'endroit est super, c'était bon, c'était bien, on était bien accueillis. Donc moi je trouve que j'aurais plutôt tendance à dire à titre individuel à tout le monde, si vous pouvez soutenir leur projet. Après, c'est à titre individuel.
Je pourrais rajouter quand même qu'on a eu une réunion avec une bonne partie quand même de l'équipe, et qu'on souhaite de la majorité, une partie de l'équipe de la majorité. Et qu'on souhaitait apporter notre soutien moral à ce lieu. On était tous d'accord.
C'est ce que j'essaye de dire.
Oui, voilà, mais c'est parce que tu disais à titre individuel.
Oui, mais c'est vrai que
Et parce que, notamment, c'est dans le champ, justement, de l'économie sociale et solidaire, des valeurs dont tu parlais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour résumer, dans les activités, il y a de la restauration, il y a un bar, il y a une ludothèque, il y a un espace de travail, il y a des concerts, il y a des ateliers. Donc, c'est un projet voilà, complètement en cohérence, voilà, qui prend en compte l'aspect solidaire, convivial, et aussi adapté aux enjeux environnementaux. Le fait de ce statut donc de SIC, la société coopérative d'intérêt collectif, qui associe chaque membre, salarié, fournisseur, citoyen et éventuellement collectivité, hein, nous semble intéressant justement pour la pérennisation d'un tel lieu. Il y a une approche qu'on trouve intéressante sur le contenu, sur le fond, c'est la restauration qui est avec des produits bio et locaux. Avec des alternatives végétales, hein. Donc ça répond aux enjeux environnementaux, comme je venais de le dire. C'est de l'économie locale, en effet, puisque c'est aussi tout fait maison, ça veut dire qu'il y a des salariés pour le faire, pour aussi les mettre en forme, pour les cuisiner. C'est un lieu intergénérationnel, hein. Vraiment, on y a croisé là, pour leur soirée de soutien. Merci d'ailleurs aux quelques élus qui étaient présents. Qui montrait justement ce soutien au lieu. Il y avait des jeunes et puis des moins jeunes, et c'était vraiment chouette. Une SIC, ça a un but non lucratif, hein. Et il y a aussi le projet pour la basse saison, puisqu'ils sont bien lucides qu'en basse saison, c'est un petit peu plus difficile à tenir, hein, le rythme de la restauration qu'ils ont eu l'été. Donc ils vont fermer sans doute un jour, c'est dans les projets en tout cas, pour mutualiser cet espace et mettre à disposition d'autres associations qui pourraient, donc c'est un lieu qui pourrait profiter à d'autres associations. Voilà, et donc ils en sont à justement compléter leur fonds, puisqu'ils ont quand même réuni déjà 77 000 euros sur les 145 000 que coûte le fonds de commerce. Tu me rattraperas, vous me rattraperez les présents sur les montants. Sur les montants. 62 réunis.
Bon,
ok. Et en tout cas, donc, ils ont réussi à repousser un petit peu l'échéance. Donc, il faudrait qu'ils réunissent 40 000 euros jusqu'au 10 octobre. Et 40 000...
67.
Il y avait bien 7, mais pas le 7 d'avant. Donc, ils ont réussi à avoir la moitié, on va dire, du montant attendu. Et ils ont réussi à repousser l'échéance. Donc, ça laisse un petit peu de marge pour accueillir toutes vos contributions. Et c'est, voilà, l'appel qu'on souhaitait faire ce soir, c'était... voilà, si les parts sont à 50 euros, ça peut soutenir ce projet. Voilà, et donc ça pourrait profiter à la dynamique locale. Voilà, si ce projet pouvait aboutir, et bien, enfin, aboutir, elle a déjà abouti, mais s'il pouvait être pérenne et non plus être en location-gérance, mais voilà, vraiment passer à l'achat du fonds de commerce.
Donc j'ai compris moral, mais pas financier.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, c'est ça.
C'est ce que t'as compris.
Oui, juste une petite précision, enfin appuyer surtout sur ce que disait Laurence, c'est une SIC donc à but non lucratif, ce qui signifie qu'ils redistribuent 100% de leurs bénéfices dans l'économie locale en fait. C'est aussi pour ça qu'on soutient moralement ce projet. Ouais.
Alors j'ai eu la discussion avec Martin, j'entends bien ça, mais comme toutes les sociétés qui redistribuent leurs résultats à des associations diocésaines, ils ont pas
100%.
Non, c'est pas 100%, parce que quand on discute un peu, on dit oui, mais vous êtes gérant, à un moment, là ils sont tous au SMIC, à un moment il faudra peut-être gagner un peu plus, parce que des responsabilités, ils sont encore, c'est pour certains célibataires, le niveau de vie familiale peut évoluer, donc voilà, enfin je veux dire, c'est, j'entends bien, j'ai eu une bonne accroche avec Martin et puis avec Émile, que je connais un peu, mais je leur dis, vous réinventez ce qui existe déjà quelque part. C'est une entreprise, c'est ça, c'est pas autre chose. Moi, ce que je souhaitais pas, c'est que parce que c'est une idée un peu innovante et tout, on commence à les aider et soutenir, parce que ça serait de la, ça serait déloyal, quoi. Les entreprises se débrouillent, voilà.
Moi, j'aurais simplement aimé reprendre un petit peu les mots de Sylvain tout à l'heure. Faites confiance aux porteurs de projets.
Je l'ai dit.
T'es d'accord? Non, mais c'est vrai, moi je pense, il faut être avec eux. C'est important d'être avec eux.
Parce que c'est un joli projet. C'est un joli projet. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres...
Ouais. Juste une remarque, est-ce qu'il serait possible qu'on fasse enlever un petit peu toutes les affiches? Des trucs qui ont lieu cet été, il y en a partout, il a plu, c'est immonde.
Okay.
Donc, okay, on fait régulièrement par les services techniques.
C'est fait régulièrement, mais il y a tout le temps.
Depuis du mois de juin.
Là, bien sûr, mais là pendant la saison d'été, évidemment, les services techniques, ils ont un peu de choses à faire, entre la propreté, la piscine, etc. Mais c'est prévu de le faire absolument cet automne, bien sûr. Mais j'ai même pas besoin de leur demander. Ils savent qu'ils ont à le faire, ça fait partie de leur tâche régalienne.
Ok, Nicole qui veut présenter la semaine bleue.
Juste deux mots sur, pour vous dire que vous êtes tous invités le 4 octobre dans le cadre de la semaine bleue, donc à la halle du Dieulefit pour une journée qui n'est pas réservé qu'aux dieulefitois d'ailleurs. Hein. Tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. C'est organisé par le CCS. Et voilà. Et dans ce cadre-là, on a le CEDER est intervenu auprès des membres du CCS aussi. Et nous aurons sûrement à l'automne une journée réservée à tous ceux dieulefitois qui veulent venir s'informer sur la précarité énergétique et comment lutter contre cette précarité énergétique. Voilà, donc on fera de la pub pour que tous ceux qui ont des problèmes puissent s'adresser au CEDER pour faire un dossier éventuellement pour trouver des solutions à des problèmes d'isolation, d'humidité, de changement de chauffage, etc. Voilà.
Tout à fait.
On vous tiendra. C'est pas que pour les personnes âgées, non, du tout.
La semaine bleue.
La semaine bleue, non, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et c'est tous les plus de 65 ans qui ont été invités, mais c'est ouvert à tout le monde. Merci.
Vas-y. Non, je commence. J'en fais quatre. Alors j'ai quelques questions à aborder avec vous pour que vous soyez informés. Nous orientons vers l'embauche d'un deuxième policier. Parce que l'absence de Corinne Brun est quand même dure depuis 4 ans. C'est vraiment long. Kevin Courvoisier, notre policier, a des tâches multiples, régulières, et qui font qu'il n'est pas assez souvent sur le terrain. On a fait les comptes par rapport au coût. Hein, mais c'est vrai que Sophie Pellegrin a quand même beaucoup pallié à la déficience d'un deuxième policier, mais elle a fini là au mois d'août, donc et ça représentait quand même une charge qui peut permettre d'embaucher une partie d'un policier. Je me suis rapproché de la commune de Bourdeaux, qui n'a pas de policier municipal et qui serait intéressé. C'est le maire qui fait le placier tous les jeudis matins au marché, et donc il serait intéressé pour avoir un policier une journée, pour ce qui nous permettrait d'avoir un coût un peu réduit. Deuxième information par rapport au Rwanda. J'ai été contacté par la présidente de l'association Intoresa Diopfi, Anne-Marie Truc, qui m'a proposé de réactiver le pacte d'amitié entre Diopfi et cette région du Rwanda qui s'appelle Bisesero et qui, avec qui il y a eu un certain nombre d'échanges auxquels certains d'entre vous ont participé pendant quelques années. Et là, ça a été un peu abandonné pendant 2 ans et demi. Donc voilà, elle souhaiterait relancer l'activité. Donc on a prévu un voyage au Rwanda avec elle. Alors, comme on m'a posé la question, je le dis tout de suite, évidemment, tous les frais seront payés par mes soins, le billet d'avion, les frais là-bas, la commune n'entre pas du tout dans les dépenses. Mais voilà, peut-être qu'on en reparlera.
Char à
voile. Mais voilà, on en reparlera si les choses se passent bien. Je trouve que cette proposition avait du sens parce que je pense que. Voilà. Diopfi est aussi une commune qui doit se. Il ne doit pas abandonner ces dossiers-là et ces relations-là. Alors, par rapport à ça, justement, on parlait tout à l'heure de la maison d'accueil de migrants. Donc, il y a eu une réunion publique vendredi, auquel certains d'entre vous ont participé. C'est donc un projet qui est porté par l'association Passerelle. L'idée, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est assez complexe et je suis pas, je maîtrise pas tout tout seul, mais l'idée, c'est de pouvoir accueillir une quinzaine de personnes, familles ou majeurs seuls, hommes seuls, parce que c'est une population qui est vraiment en grande difficulté chez les migrants, donc des gens qui sont en attente d'un accord de la préfecture pour avoir des papiers, donc ils cherchent un lieu, ils cherchent, voilà, si vous avez une grande maison qui est vide et qui vous êtes prêt à la prêter, il n'y a pas de problème, ils sont partants. Ce que j'aurais aimé, ce que je voulais peut-être vous proposer, c'est qu'ils viennent nous exposer en conseil municipal, un projet conseil municipal, le projet, pour que tout le monde soit bien informé de la même manière sur ce projet. Mais là aussi, moi j'ai apporté mon soutien moral, là aussi moral, pas tellement plus, hein, parce que voilà, les réalités économiques font que c'est difficile de faire plus, mais je trouve que ça a du sens pour Dieufi de soutenir ce genre de projet. Donc voilà, il va mener son chemin, ce projet, ils ont rencontré la préfète, ils ont rencontré des financeurs éventuels, il y a quand même un budget important, puisqu'ils veulent s'appuyer sur des professionnels, donc il y a un budget de 200 000 euros par an. Voilà. Avec votre accord, on fera venir les membres de Passerelle qui nous exposeront le projet.
Il faut rappeler aussi les murs du Sertarien.
Et il y a les murs du Sertarien le week-end prochain.
Trois jours fantastiques de conférences sur les migrants, etc. C'est conférences, films et débats. Vendredi, samedi, dimanche prochain.
Et
il y a la Virade de l'Espoir dimanche prochain.
Oui, Virade de l'Espoir dimanche prochain. Autre chose sur le qui n'a rien à voir. Ça fait un moment qu'on en parlait, mais il y a un certain nombre de choses qui collent plus vraiment par rapport au PLU. Il y a des règles importantes qui ont changé, des lois qui sont arrivées depuis que notre PLU a été voté en 2013. Il faut qu'on mette en route une modification. Alors une modification, c'est pas une révision. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer le zonage. Voilà.
En conformité avec la loi.
Voilà. Donc c'est sur les pastillages autour des maisons, dans les zones agricoles et naturelles. C'est mise à jour du règlement en fonction des nouvelles lois. C'est remettre à plat les emplacements réservés. Il y a un certain nombre d'emplacements réservés qui ont été prévus en 2013 qui ne sont pas forcément indispensables, judicieux aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres qu'il faut rajouter. Voilà. Il y a éventuellement ouverture d'une zone UA. Enfin bon, on en parlera. Mais on est décidé à mettre en route cette modification. À toi.
Allez. Une petite pause de voix, un petit changement. Oui, c'était juste pour informer, comme on a passé un arrêté aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, ça va être les horaires de l'éclairage public d'automne qu'on avait annoncé lors du pré-conseil de mars de cette année. Donc voilà, juste pour informer que ça serait 23h à 6h partout, sauf dans l'hypercentre où là ça sera un éclairage à 5h30 le matin et minuit les vendredis et samedis soirs. Voilà. Et juste signaler qu'on a découvert qu'il y avait un sous-compteur, enfin une sorte de sous-horloge pour le parking du collège et que donc on a pu permettre l'extinction à 20h puisqu'il y a vraiment un suréclairage sur cette zone et qui sert à rien, quoi. Et juste qu'on va continuer dans la fin d'année à faire le programme qui avait été annoncé, c'est-à-dire la suppression de quelques candélabres et sans doute l'achat donc de nouvelles horloges, enfin les mêmes horloges qu'on a mis dans le centre, vu qu'on a pu faire un constat positif sur pendant 6 mois là, quand ça a été de celle sur celle posée au centre-bourg. Voilà.
Je rebondis.
S'il te plaît.
Oui, moi.
À propos. Non, je vais parler comme ça. À propos des orages.
Non, non,
c'est pas pour nous, Marie-Val. C'est pour les gens qui sont à la caméra, là-bas. Voilà.
À propos des horaires dont tu parles d'extinction et compagnie, est-ce qu'on pourrait avoir une petite affichette faite pour mettre sur les panneaux d'information des différents quartiers?
Oui, je te remercie de me le rappeler.
Les gens ont besoin de savoir quand même à quelle heure ça va s'éteindre. Et pour prendre ceux qui n'ont pas de portable avec une lampe de poche, voilà. Si tu peux prévoir une petite affichette mise dans les bannettes des différents quartiers.
Je le ferai.
Je te remercie.
Et juste, ça me fait penser que j'ai oublié de compléter, faut le redire parce que je ne sais pas si vous allez en parler au niveau du coût de l'électricité.
Ça, j'y arrive. J'y arrive.
Je n'interviens pas. Enfin, en tout cas, évidemment, c'est pour toutes les raisons qu'on avait déjà évoquées, mais là,
en plus l'économie.
L'économie devient de plus en plus prépondérante dans ces choix.
Voilà, donc juste un petit mot sur l'électricité, sur les tarifs. Les particuliers sont ce qu'on appelle sous le régime du bouclier tarifaire. C'est-à-dire que votre électricité, notre électricité, à tous, a augmenté de 4% en 2022 et va augmenter de 15% en 2023. La commune de Dieulfi, parce qu'elle fait plus de 2 millions de budget par an et a plus de 10 salariés, n'a pas de bouclier tarifaire. Ça veut dire que l'électricité, à consommation égale, la facture d'électricité était en 2021 de 53 000 euros. Elle est en 2022, elle va arriver autour de 120 000 euros. Et elle est prévue pour 2023 à 270 000 euros. On passe de 53 000 à 270 000. 217 000 euros de plus. C'est des centaines de pourcents chaque année en plus. Donc, ça va évidemment avoir des influences sur le budget. Hein, on essaie de réfléchir avec... avec l'équipe pour essayer de voir comment on peut faire. Ça a comme conséquence, en particulier avec les associations, et notamment le rugby, notamment la boule des As, notamment le tennis, et notamment le petit train du Picodon, aujourd'hui les compteurs sont au nom de la commune, donc augmentation plein pot. Si on change le titulaire du compteur, et si au lieu de que ce soit au nom de la commune, c'est au nom de la boule des As, eh ben, on se retrouve avec un tarif protégé par le bouclier tarifaire. Donc on est en train de discuter avec les dites associations, hein, qui ont des consommations, et pour qu'elles prennent en charge ces consommations. Et qu'on organise un système de, on va dire, subvention exceptionnelle pour que on puisse. L'idée, c'est pas qu'elles payent l'électricité en plus de tout le reste qu'elles ont déjà sur les épaules, mais plutôt de profiter de cette protection sur le tarif et que ça nous sorte, nous, quand même, des épines du pied importantes. Jacques, tu voulais.
Oui, je profite de l'occasion pour donner une petite précision parce que tu as dit que les particuliers étaient sous le régime. Du tarif réglementé. Attention, ce tarif réglementé, il n'est distribué que par EDF. Tous les autres prestataires et fournisseurs d'électricité ont, eux, la possibilité de changer leur tarification. Alors, il y a 2-3 ans, généralement, c'était plus favorable de quitter EDF. Je rappelle qu'on peut le quitter à tout moment, son prestataire, du jour au lendemain, avec compteur Linky ou pas Linky, il n'y a pas de problème. Et attention, il y a certains prestataires actuellement, distributeurs, donc, qui ont offert des augmentations de 70% au-delà du réglementé. Donc personnellement, je vous fais part de mon expérience, je suis revenu à EDF.
Bien. Vous avez deux petites choses encore, deux invitations. Une première invitation qui concerne la verrerie Morin, à côté de la quincaille. La famille Morin souhaite inviter l'ensemble des élus communautaires, et donc évidemment les élus dieulfitois, à une présentation de la collection de Claude Morin, donc le papa, l'ancien verrier, samedi 24, donc samedi prochain, de 14 à 18 heures. Les enfants Morin souhaitent, et Madame Morin, Madame Veuve Morin, souhaitent faire don à la collectivité des œuvres de Claude Morin. Donc voilà, on ne sait pas encore très bien si ça va être à la commune de Dieulfi ou si ça va être avec, à la communauté de communes. Mais enfin, l'ensemble des élus sont invités à venir voir cette collection. Samedi de 14 à 18 heures.
Quelle heure? 14 à 18.
14 à 18. Et puis, je vous annonce pour le vendredi 30, donc vendredi d'après, à 11h30 au service technique, l'inauguration du camion électrique que la commune a mis en place avec l'aide d'un certain nombre de prestataires économiques, d'entreprises, qui ont chacun mis leur logo sur le camion. Donc chacun a payé quelque chose. Donc voilà, on trouve que c'est bien de les mettre en valeur. Et donc c'est vendredi 30 à 11h30 où on boira un pot électrique. Au service du camion. Service technique. Vendredi 30, 11h30, service technique, camion électrique. Voilà, avant de donner la parole, s'il n'y a pas d'autres...
Ah si, encore quelque chose d'important.
Merci. Juste sur les véhicules électriques, je sens le besoin de prendre la parole par rapport à une étude récente qui nous met en garde sur l'idée du tout électrique. Et notamment des véhicules lourds qui en fait portent énormément de batteries permettent effectivement une charge importante et des vitesses importantes, mais en réalité sont très polluantes et avec des difficultés et de recyclage et de consommation et d'énergie grise à la production, c'est-à-dire toute l'énergie nécessaire à construire le véhicule. Et donc tout cela est très polluant. Donc en fait, le bilan en est que si on veut une assistance électrique, donc profitant des assistances électriques vélo cargo, quadricycle à moteur, qui sont assez peu connus, mais qui sont je ne vais pas citer de marque, mais il y en a plusieurs, surtout des deux places, qui sont des petits véhicules, lorsqu'on fait des déplacements jusqu'à 30 km, donc qui permet d'aller aller-retour. Montélimar, oui, 60 km, pardon. Aller-retour Montélimar, ça passe en quadricycle à moteur. Puis ensuite, on a les véhicules 4 ou 5 places légers. Et en ça, ça reste intéressant pour des déplacements qui peuvent aller jusqu'à, Geneviève, combien ? 120 km, hein, je crois, 150 km, à des allures correctes et en chargeant 4 ou 5 personnes. Et au-delà, en fait, on n'est plus du tout sur des bons rapports en termes de bilan carbone. Et c'est très important de savoir pour ne pas aller chercher des gros cubes en électrique. Merci.
Essayer d'être rapide, mais ça fait un moment qu'on voulait le faire, donc on a raté la dernière fois. Et en plus, aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est un peu. C'est une journée qui a fait un peu avancer le projet, puisqu'on a. Donc, c'est le projet du skatepark et de l'aire de skatepark à côté du quartier du Georcher. Donc, aujourd'hui, on a publié le marché, donc les entreprises vont enfin pouvoir répondre pour nous faire des propositions pour que ce skatepark voit le jour. Début 2023, si tout se passe bien. Voilà, donc on avait envie de vous montrer un petit peu de à quoi ça va ressembler. Alors, je me suis mis debout pour vous montrer. Donc ici, c'est le rond-point des écoles. Là-bas, le collège. Là-bas, le Ginchet. Et ici, le terrain de foot. Là, la vieille route. Vous situez à peu près. Donc voilà, aujourd'hui, anciennement, le skatepark était situé ici, et donc il a été déplacé à cet endroit-là pour créer un peu une nouveauté qui est très très rare en France. Tous les skateparks couverts sont privés, et donc là, c'est l'architecte qui nous a donné l'idée de se servir de la structure du Mille Club
Donc on va se servir d'un tiers du Meetup pour créer le début du skatepark qui sera couvert, qui permet donc aux jeunes, enfin et aux moins jeunes, aux pratiquants, de faire du skate même quand il pleut, quand il y a beaucoup de soleil, etc. On a gardé quand même cette surface à peu près plane. Il y aura juste une petite table au milieu. Donc ça permet aux débutants de s'entraîner à sauter, mais ça permet aussi de, je sais pas, je prends l'exemple parce que j'y étais au mois de juin, de faire l'AG du foot où du coup on met les bancs sur le côté et on met les tables et on peut quand même se servir de cet espace pour d'autres utilisations. Pardon. Voilà, le skatepark il a été imaginé avec les jeunes de l'espace jeune par deux occasions. Une première occasion où ils nous ont vraiment donné toutes leurs envies, leurs idées, leurs pratiques, leur niveau. Donc c'était assez divers. Et après donc l'architecte qui est un architecte de Lyon qui est spécialiste en skatepark et en aire de jeu avait fait donc deux propositions et voilà, c'était, on a fait une autre réunion, il n'y a pas eu beaucoup de monde mais il y en a eu quand même un petit peu où ils ont pu donner leur avis entre les deux propositions. Voilà, l'idée c'est quand même de refaire tout l'espace. Donc on enlève toute la barrière ici pour ouvrir tout cet espace et profiter de tout cet espace-là où pour le moment il n'y a pas grand-chose pour créer également une aire de jeu pour les plus jeunes. Pour vraiment faire voilà, une aire intergénérationnelle où les familles peuvent aller à tout âge. Voilà. Alors les jeux, on a dû les choisir pour chiffrer le projet. Après, ça dépendra de l'offre des entreprises que les entreprises nous feront. Et peut-être une dernière chose, voilà, là en bas il restait un espace libre donc de l'ancien skatepark. C'est posé la question de ce qu'on en fait, de ce qu'on en faisait. On a décidé de la garder donc bétonnée et de faire un traçage pour faire un petit circuit et peut-être une ou deux bosses pour les petits qui ont souvent envie en fait d'aller avec leur draisienne sur les skateparks et que ça devient compliqué pour les plus aguerris de pratiquer. Voilà, donc on s'est dit on garde un petit espace pour les plus petits, pour les roulants. Voilà, il y a des petites projections, et puis peut-être qu'il y a des questions.
J'ai vu le mur de la vieille route, il y a un accès piéton.
Très bonne remarque. Donc effectivement, là. Comment ? On crée ici un accès piéton. De la vieille route, ça sera un escalier puisque l'accès PMR se fait par ici ou si on se gare par le parking qui est ici. Ça sera une escalier avec une rampe pour quand même les personnes qui ont leur vélo, pour pouvoir pousser le vélo pour monter. Et c'est vraiment dans un but de pouvoir utiliser toutes ces places de parking qui sont tout le long de la vieille route, qui sont vraiment sous-utilisées. Et on nous dit souvent que le parking de l'école du Ginché, il peut être rapidement plein, pas pratique, etc. Voilà, on avait envie de créer cette ouverture pour favoriser toutes ces places sous-utilisées.
Et il n'y a plus de clôture pour un jeune enfant.
Si, alors il y a des clôtures. En fait, on enlève celle-ci pour récupérer tout cet espace-là. Après, ça sera clôturé bien sûr le long de la route. Ici, parce qu'en fait, au début, on a pensé clôturer là, mais comme il y a les collégiens qui passent par ici, on ne peut pas créer un bouchon au milieu de la route. Donc, en fait, on clôture ici et on laisse celle-ci qui est existante voilà, jusqu'au terrain de foot pour les jeunes enfants, pour pas qu'ils s'enfuient, pour aussi essayer d'empêcher au maximum les motos, les scooters, etc. de venir sur le lieu. Voilà.
Et une petite balustrade autour du jeu des petits.
Voilà, qui est obligatoire de par la proximité de la route. Donc là, il y a une petite balustrade en bois tout le long ici. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Non ? Très bien. Ben, merci beaucoup.
Merci Marion. Voilà, on a prévu de pouvoir boire un pot de l'amitié à la fin de la séance. Mais ceci dit, je vais quand même laisser la parole au public. Je vais fermer le conseil municipal
Si certains d'entre vous ont des questions, je vous propose qu'elles ne soient pas trop longues, mais on aime bien vos questions. Oui.
Oui, je voulais attirer votre attention sur un problème qui a été partiellement abordé à deux reprises concernant l'état des chemins communaux. Donc il y a déjà eu deux remarques concernant l'état ou les aides que vous avez obtenues pour le drainage, enfin les réparations. Et le deuxième point, c'était en parlant de l'épareuse et les bordures de ces chemins communaux. Donc, pour information, moi, ce qui me concerne, c'est le chemin de Manlon, qu'on va pas tarder à appeler le chemin des nids de poules, mais c'est du mot. Mais je vous en avais parlé, et vous m'aviez rassuré en disant, au cas où vous auriez oublié, qu'on ne pouvait pas faire de réparation de revêtements l'été. Cette année, il a fait très chaud. Mais avant l'hiver, il y a l'automne. Donc, il y a un créneau, disons.
Je crois que c'était l'hiver que c'était pas possible.
Parce que c'est... Non, j'ai tout marqué.
C'était l'hiver.
Et ça devient très grave. Et en plus, la saison, avec la pluie, ça...
Avec les trois pluies qu'il y a eu, là.
Parce qu'il y a deux ans, la mairie avait fait des gros travaux. Ils avaient bouché trois nids de poule. Trois. Et enchanté, le personnel m'avait dit le lendemain, autour du café le matin, « Ah, mais tu dois être content, on a réparé ton chemin. »
On garde une marge de progression.
Oui. C'est pour ça que vous avez du travail à faire maintenant. Donc, il y a ça. Et le deuxième point, concernant les pareuses ou peu importe qui le fait, j'avais attiré votre attention qu'il fallait éventuellement contacter les riverains. Moi, personnellement, ma bordure, elle est propre. Moi. Et la plupart du temps, ça vient du champ des riverains. Alors, pour information, dans le virage qui est l'endroit le plus étroit, vous êtes souvent en vélo, ça va, mais...
Derrière l'escargot d'or.
Oui, derrière l'escargot d'or. Il y a 2,50 m de chemin communal. Et à un endroit, il y a 1,75 m entre... C'est pas méchant, c'est les acacias d'un côté et les ronces de l'autre.
Et les lilas. Et les lilas.
Comme les lilas, on choisit pas ce qu'on accroche. Donc, je tenais à ce que vous en preniez note. Merci beaucoup.
Ben, je ferai rajouter dans le recensement...
Parce que vous aviez oublié le chemin de Malmont.
Mais j'ai pas osé.
Comme c'est mon chemin, c'est Laurent qui s'en occupe de cette partie-là.
Comme c'est mon chemin.
Oui.
Vous savez, c'est le dernier.
Il a été partiellement restauré.
C'est le sera le dernier servi. Hein.
Non, il a été partiellement restauré juste avant le chemin.
Trois graviers, c'était pour dire.
La partie basse. Et après, ça, avec la pluie, c'est pire tout le long. Ça devient. Merci.
J'entendais dire que, en fait, à la salle, dans la halle, vous autorisiez plus les lotos.
Les
lotos.
Non.
Le chef des lotos.
Non, donc c'est pas vrai. Ce qui est juste, c'est que parfois, lorsque des personnes viennent nouvellement. Demander à faire des lotos ici, Stéphane, avec mon accord, les aiguille plutôt vers Poët-Laval s'ils souhaitent faire de la buvette ou de la petite restauration en permanence pendant le loto. Ce qui leur permet en fait d'avoir des recettes et donc d'avoir un budget plus facile, plus aisé qu'ici, où on ne peut pas manger pendant, ni boire, hein, mais simplement faire y aller à la pause dans le foyer. Ce qui reste possible, mais en tout cas c'est vrai que vu la destination de la halle qui est de rester réellement centré sur la culture et le spectacle, on essaye de limiter la multiplication de ces propositions.
Voilà. Quand vous avez des anciens. Quand vous avez des anciens qui sont dans le centre-ville,
Non, non, mais il n'y a aucun problème. Les lotos actuellement existants sont maintenus sans aucun problème.
Ah. Et la danse, les cours de danse aussi, j'entendais dire que les cours de danse...
La danse, on n'est plus là depuis que nous, on est arrivés. Et toutes les activités sont, avec l'accord de tout le monde, rapatriées sur l'espace sportif du gymnase et des salles de motricité. Et tout le monde y est bien, donc voilà, tout le monde y tient, tout va bien.
D'accord, ok, merci.
Oui, sur le problème des lotos, je voulais faire une remarque.
c'est que j'ai pu constater plusieurs fois que sur le plan sécurité, il y avait un nombre de participants qui était trop élevé et avec des risques éventuellement en cas d'évacuation rapide, de gros risques. Alors peut-être que là aussi, on fera en sorte que ça soit limité à un certain nombre.
Vous avez dit que vous alliez engager une modification du PLU. Quelle en est réellement la procédure? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'il y a une enquête publique? Ou enfin, est-ce que les propriétaires ou les habitants peuvent intervenir dans le, au cours de cette procédure?
Oui. Alors, on n'a pas encore défini le déroulement, je dirais, quotidien de la modification, comment on allait procéder comment on allait faire savoir à tout le monde des futures évolutions. Il n'y a pas de changement de zonage, donc ça limite la portée, et ça se termine quand même par une enquête publique, avec un commissaire enquêteur qui est désigné, qui vient faire des permanences une fois par semaine, deux fois par semaine, pendant un mois, et qui apporte ses conclusions. Donc, mais c'est, je pense qu'on va essayer de trouver quelque chose, un système pour qu'il y ait une réunion publique ou deux réunions publiques ou bien un groupe de travail qui se penche là-dessus. Oui. Merci. Autre question ? Merci à tout le monde.